need you two to teach me everything you know about basketball.
Breaking, breaking bad.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Breaking Ball. J'espère que vous allez bien et toi aussi Harold.
La forme.
Aujourd'hui, pas d'Ilias, il est puni parce que son équipe de merde était au clean. Donc voilà, on se passera de lui pour aujourd'hui, il sera peut-être de retour la prochaine fois s'il montre un meilleur visage. Mais il vous passe le bonjour. J'espère que la saison n'a pas été aussi longue pour vous qu'elle a pu l'être pour moi, peut-être pour Harold aussi, mais voilà, en tout cas on touche enfin au but, on atteint enfin les playoffs. À l'heure où on enregistre ça, Golden State vient de se faire éliminer, donc on va Non mais voilà, donc on va pouvoir parler un peu de plein de choses. Aujourd'hui, ce qu'on a décidé de faire, c'est de parler du jeu playoff. Qu'est-ce que ça veut dire le jeu playoff? Aujourd'hui, quand on parle de la NBA de manière générale, on entend souvent que tel ou tel joueur n'est pas capable de performer en playoff, on entend souvent que telle ou telle équipe va décevoir en playoff, ou que tel ou tel système est vraiment conditionné pour les playoffs. On entend quelques phrases comme le jeu ralenti, enfin, il y a beaucoup de stéréotypes, ou alors de clichés, ou alors de phrases un peu bateaux qu'on peut entendre assez souvent, et qui sont pas forcément fausses, hein, mais qu'on entend très souvent sur le jeu playoff, et qui sont utilisées pour soit parfois dénigrer certains joueurs, soit pour valoriser d'autres, soit pour valoriser le CV d'un ou d'un autre joueur. Donc ce qu'on a décidé de faire aujourd'hui, c'est vraiment d'aborder un peu la différence qu'il peut y avoir entre la saison régulière et les playoffs à travers plein d'aspects. Donc d'abord rapidement une petite vision d'ensemble, peut-être 2-3 stats avant de rentrer directement dans le vif du sujet et de parler vraiment des différences offensives qu'on peut trouver dans le jeu, des différences défensives. Et on finira par aborder justement un peu la saison régulière et les équipes qui sont qualifiées pour voir et pour discuter de quelles équipes sont peut-être conditionnées pour réussir cette année, quelles équipes ne le sont pas et pourquoi, quels joueurs sont vraiment peut-être plus à l'aise dans ce type de format et à l'inverse, quels joueurs risquent de décevoir, etc. Histoire de justement aborder les playoffs qui arrivent et puis de faire une petite preview sans forcément trop rentrer dans les détails de chaque match-up. Avant de commencer, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'il y a quelques années, Bob Myers, des Warriors, de l'organisation des Warriors, avait abordé lors d'un colloque, il était avec Paul Pierce et 2-3 autres membres de l'organisation, et il parlait justement de la différence entre les playoffs et la saison régulière. Et donc on va vous faire écouter rapidement le petit clip d'une minute et on reviendra dessus après pour en discuter un petit peu.
The playoffs are nothing like the regular season. They are two completely different sports. The way it's officiated, the way that he's playing 42 minutes in the playoffs. I don't know what he averaged in the regular season when he was playing. So your bench is completely different in the regular season versus the playoffs.
And you can prepare differently. You can prepare differently.
Absolutely. You have more time.
And you do prepare differently. Yeah. Not only can you do. And you better believe Paul listening to Doc as his coach in a regular season back-to-back game, he's going in the locker room. He's like, all right, who am I got? You know, in the playoffs, he knows exactly what he's doing. Right. And by the way, in the playoffs, his first move is gone. It's like a baseball player that they say, well, here's our scouting report. He cannot hit a curveball away. Mm-hmm. He's getting a curveball away every single pitch. So if they say, Paul, take away his right-hand drive, and the pick and roll are going to blitz, whatever they know he does well is gone. So that's where you need to check as many boxes as you can. Even shooters, we played some great shooters in the playoffs and have neutralized them. Because if that's all you can do is shoot the three, then you're not necessarily the weapon that we sometimes make you out to be in the regular season. That 2 feet of space you had in the regular season is 2 inches. And you watch how many players cannot make a shot in the playoffs and shoot 42% in the regular season. It's not the same thing. So why does that matter? The more dimensions you have to your game, the harder you are to take away.
Donc, pour ceux, peut-être qu'ils n'ont pas forcément entendu, ou si le jeu ne sort pas très bien, ou qu'ils ne comprennent pas, globalement, il explique que la saison régulière et les playoffs sont totalement différents, parce que dans les playoffs, tu es ultra conscient et ultra rigoureux par rapport à ton match-up, que ce soit individuellement en tant que joueur, c'est pour ça qu'il s'adresse à Paul Pierce, ou alors de manière générale en équipe. Il explique aussi que pour la plupart des joueurs, leur premier move et sera forcément bien défendu. Donc ça veut dire que si on sait que tu es vraiment à l'aise sur un certain schéma, sur un certain move, à un certain endroit du terrain, on va essayer de te faire jouer autre part, te faire déjouer. Et c'est ce qui explique aussi que parfois les joueurs assez unidimensionnels peuvent avoir des problèmes parce qu'ils sont assez, c'est plus facile de planifier pour eux en playoff et ils ne seront pas les armes qu'on pense qu'ils peuvent être en saison régulière, même s'ils peuvent shooter à 45% en saison régulière. Une fois qu'ils arrivent en playoff, ils peuvent justement avoir des difficultés et se retrouver sans trop de sans trop d'armes, sans trop de cordes à leur arc, parce qu'ils sont, ils sont pas assez polyvalents, quoi. Qu'est-ce que tu penses de cette déclaration, Rod?
Je pense qu'il a raison. Je pense que c'est pas le cas pour tous les joueurs, pour toutes les équipes, mais je pense qu'il y a une part de vérité dans ce qu'il dit. Dans le sens où, au final, la saison régulière, c'est une façon de mettre en place ton système, de peaufiner le système, de le pousser au bout de ce qu'il peut être. Et t'as pas le temps, pour tous les matchs, de planifier genre par rapport à ce que font tous les joueurs, en fait. Tu planifies pour les stars adverses, mais tu planifies pas pour le 7e jour de la rotation. Tes scouts, ils sont pas là à dire ce joueur-là, dans le soutien réponse, il n'y a pas tous ces trucs qu'ils savent, qu'ils savent faire. Parfois, c'est même des rookies. Donc, c'est dur, au début de saison, d'avoir toutes les informations que tu veux. Au niveau des playoffs, bah, t'as tout, en fait. Le soutien réponse est beaucoup plus important. Les joueurs, ils sont calqués sur ce que fait sur leur adversaire direct. Ils savent qu'ils affrontent pendant 2 semaines, limite. Donc, le niveau de détail est beaucoup plus grand, ouais.
C'est ça, c'est le souci du détail est plus grand, et il y avait un peu dans le même style, mais une autre un peu de déclaration qui avait été dit sur ce sujet. Mais globalement, avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet, etc., ce qu'on peut voir en play-off, c'est que les stars vont jouer plus de temps, les équipes ont plus de temps pour préparer un plan détaillé, un plan vraiment rigoureux, comme tu dis, pour attaquer toutes les faiblesses de l'adversaire, en fait, que ce soit défensivement, offensivement, mentalement, dans les habitudes, dans les fautes, enfin, dans tout ce que le jeu peut apporter. Il y a juste beaucoup plus de temps, et tu sais exactement qui t'affronte, comment tu l'affrontes, pourquoi, entre guillemets, pourquoi tu l'affrontes, et ce face à quoi tu risques de te trouver. Là où la saison régulière, l'échantillon est tellement grand que t'es pas vraiment dans cette situation, tu développes un système et t'es plus dans un marathon. Ceci dit, les règles globales restent les mêmes, même si effectivement on a tendance à dire que les arbitres sifflent un peu moins, donc il y a un peu moins de coups de sifflet, etc. Il y a une phrase qui a souvent été utilisée, qui l'est un peu moins maintenant, mais qui est celle de les défenses gagnent des titres. Tu serais d'accord avec cette idée ou pas?
Je pensais que c'était le cas il y a peut-être 10 ans, et qu'aujourd'hui t'as besoin d'une bonne défense. T'as toujours cette idée que, genre, si t'as pas une des 10 meilleures défenses de la ligue, tu peux pas croire au titre normalement, sauf des circonstances exceptionnelles. Mais je pense que aujourd'hui, à la fois les règles du jeu et le niveau de talent fait que si t'as pas une attaque suffisante pour faire certaines choses, t'as aucune chance de gagner le titre. Donc, je pense que c'était vrai, mais je pense que ça tend à être l'inverse au final.
Par rapport à ce que tu dis, justement, tu viens de dire que globalement tu es censé être une top 10, enfin, en tout cas être top c'est, 10 en ouais, défense, c'est ça.
C'est genre le truc qu'on regarde à chaque fois.
C'est ça. Et sur les années précédentes, la seule équipe, je crois que c'était sur les 10 dernières années même, en tout cas sur toutes les dernières années, qui a réussi à gagner le titre sans être top 10 défense, c'était Golden State en 2018. Déjà, bon, voilà le roster qu'ils avaient. Et ils étaient 11e, donc ça veut dire que même avec ça, bon, on avait bien vu que la défense était de moins en moins efficace, parce que le roster était un peu en fin de vie, que l'équipe fonctionnait beaucoup sur les systèmes et les automatismes, et que offensivement il y avait beaucoup trop de marge de manœuvre.
Ils dormaient aussi un peu.
Oui, c'est ça. Ils étaient clairement, enfin, ils en avaient pas grand chose à foutre. Ils sortaient déjà d'un titre, etc. Donc voilà, il n'empêche que par exemple, voilà, Toronto en 2019, ils sont 5e meilleure défense, et c'est des choses qu'on retrouve encore, et même parmi les perdants parfois. Donc on prend les derniers perdants, le Heat en 2020, le Heat est 12e meilleure défense en termes de defensive rating, et les Warriors l'année précédente, ils sont 11e aussi. Donc ça veut dire que même en termes de, enfin, même pour aller aussi loin généralement, c'est des choses qu'on retrouve.
Et t'as le Heat qui avait fait un choix en saison régulière de pas forcément utiliser BAM en truc, et Warriors aussi, ils n'utilisaient pas forcément leur meilleur 5, même défensivement,
c'est ça,
avec Draymond Green et tout ça.
D'ailleurs, c'est un truc sur lequel on reviendra après, mais c'est vrai que pour le coup, le Heat et même parfois Golden State étaient pas mal d'équipes, notamment les Bucks cette année, on reviendra dessus plus tard. Ils ont tendance aussi parfois à utiliser la saison régulière pour tenter plein de choses. Donc ça veut dire que t'es pas forcément aussi bon que tu aurais pu l'être si tu étais vraiment dans l'objectif d'être la meilleure défense possible. Il y a plein de choses à essayer, à expérimenter, donc voilà. Avant de rentrer encore du coup dans le, enfin, avant de rentrer un peu plus dans le détail, il y a quand même deux choses qu'on peut noter qui sont soit souvent, qui sont souvent annoncées comme des faits en fait par rapport à la NBA, c'est le fait que le jeu ralentit en playoff. Quand on dit que le jeu ralentit en playoff, généralement, on a tendance à penser que du coup le demi-terrain devient un peu la, on a tendance à penser, c'est une vérité, même si elle n'est pas forcément aussi accentuée qu'on peut en avoir l'air, mais on a tendance à penser que le demi-terrain devient plus présent qu'il peut l'être en saison régulière, qu'il y a moins de jeux de transition et que du coup, par extension, il y a beaucoup de types de jeux, de systèmes de jeux ou alors de joueurs tout simplement qui peuvent tendre à être moins efficaces. Ce qu'on a pu voir sur les dernières années, par exemple, sur les 4 dernières, c'est que effectivement le jeu ralentit en playoff. Donc par exemple, l'année dernière, le rythme moyen, la pace moyenne de la saison régulière, c'était de 99,2 possessions, enfin, par 100 possessions. En playoff, on arrive, c'est 98,4. Donc bon, c'est relativement proche. L'année précédente, c'était 100,3 en saison régulière, 98 en playoff. 100 l'année précédente, 95 en playoff. Donc ça, en 2018, par contre, il y avait une certaine marge. Et 97 possessions par 100 possessions, pardon, et 94,66 une fois en playoff. Globalement, on remarque effectivement le jeu ralenti, donc ça veut dire qu'on va tout bêtement et tout simplement avoir moins de possessions sur le terrain. Donc ce qu'on peut en déduire, c'est que chaque possession a un peu plus d'impact, que l'efficacité est d'autant plus mise en avant qu'en saison régulière. Ça, on reviendra dessus plus en détail aussi quand on parlera de l'attaque. Et un dernier point, c'est le manque de voyage. C'est-à-dire que effectivement quand tu es en saison régulière, tu peux te retrouver t'as 5 matchs en 4 jours, enfin 4 matchs en 5 jours, tu voyages tout le temps, t'as le jet lag, t'es fatigué, t'es physiquement épuisé par tous le contexte en fait que tu peux avoir dans une saison régulière en NBA. T'as beaucoup moins ça en playoff, donc il y a beaucoup plus d'emphase sur le jeu et sur le match-up en lui-même, tout autant que sur le coaching, etc. etc. Est-ce que tu vois d'autres choses d'un point de vue assez général qui peuvent changer ou varier entre la saison régulière et les playoffs?
Ouais, comme Bummer disait, il y a peut-être ça siffle un peu, j'ai pas vérifié, mais peut-être ça siffle un peu moins ou genre moins facilement certaines fautes en playoff qu'en saison régulière. On dit que ça laisse plus jouer, tu vois. Même ça, si c'est plus physique, ça laisse, non, pas plus jouer, mais c'est limite plus physique en fait.
Ouais.
Curry, il y a pas mal de ces types qui parlent qu'en playoff, ça le balance partout.
C'est clair, lui, il a passé des années, il est défendu à 3, ça lui met des coups, ça tire son maillot, ça le pousse. Enfin, c'est ça joue hyper physique, et c'était, d'ailleurs, c'est même volontaire. C'est
même dans le même, dans, on va pas dire dans le vieux temps, mais c'était aussi ça. On laisse passer beaucoup plus de choses physiquement en playoff, et même les joueurs sont beaucoup, l'intensité du match. Et des meilleures équipes surtout est beaucoup plus important.
C'est clair. Et puis ça, pareil, ça se justifie statistiquement, mais c'est assez léger. Donc ça veut dire que quand tu regardes le nombre de lancers francs par tentative de tir, donc le ratio, ça s'appelle free throw slash le nombre de tirs, il baisse en playoff effectivement. Maintenant, voilà, ça reste, c'est assez, quand tu regardes sur le statistiquement, c'est assez anecdotique, mais de manière générale, ça se voit un peu, surtout en fin de match et surtout parmi les équipes les plus physiques. Pour rentrer maintenant un peu plus dans le vif du sujet et dans ce qu'on veut aborder tout simplement, on va commencer avec l'attaque. Les offenses, donc les attaques, que ce soit en termes de système, de joueurs, etc., évoluent beaucoup, beaucoup, beaucoup entre les playoffs et la saison régulière. Pour toi, quel serait, ou alors même, enfin pas forcément le plus, mais un point ultra important ou alors ultra, enfin qui est fondamentalement différent entre les playoffs et la saison régulière et qui change du coup la manière soit d'aborder le jeu, soit d'aborder un roster, une équipe, un système ou même des match-ups?
Je pense que en saison régulière, tu as tendance pas à surréagir sur des choses. En fait, le plus important, c'est que ta star puisse s'en sortir dans des conditions. Si tu veux faire quelque chose en playoffs, il faut que déjà tes meilleurs joueurs soient capables de s'en sortir, mettre dans plusieurs situations, comme Bomber, Sparrow, Paul Pierce. C'est même pas une question de premier ou, mais soit le premier ou ils doivent être létal et genre en 1 contre 1 c'est impossible pour l'adversaire de défendre. Soit ils doivent en avoir 2, 3, 4, comme ça. Parce que je pense que si ta première option ou ta deuxième option, eux ils ont des problèmes, ton attaque va forcément disparaître face à des défenses. Normalement des bonnes défenses de playoff. Genre les meilleures défenses de la ligue en fait.
Totalement, je pense que du coup pour commencer par les joueurs, j'avais à peu près pensé la même chose, c'est que effectivement il n'y a pas nécessairement besoin, enfin si, mais il n'y a pas forcément pour les meilleurs joueurs besoin que d'avoir 5 ou 6 moves. Si effectivement ton premier move il est assez fort pour que tu puisses absolument perdurer avec et performer avec, tu t'en sortiras. Mais même ça, tu vois, par exemple, LeBron, qui a vécu sur le drive and kick, il est arrivé à un stade, à un moment de sa carrière, où du coup, bah, il a un peu fait évoluer son jeu vers le poste, pour, juste pour avoir une deuxième possibilité dans le cas où, effectivement, ça nécessite de... où l'équipe en face décide de, bah, de verrouiller la peinture et de l'empêcher de pouvoir drive and kick, tout simplement. Ou alors que les ailiers et les shooters soient assez bien défendus pour empêcher LeBron de, justement, les servir correctement. C'est un peu ce que Golden State avait fait en 2015, du coup, quand... il le laissait un peu, bah ok, tu veux drive and kick, tu vas aller au panier et tu vas mettre tes points, mais à côté de ça, l'équipe en face ne sera pas, enfin les autres joueurs ne seront pas capables de performer, ils ne seront pas capables de sanctionner, et du coup, bah c'est, voilà, c'est, tu te retrouves du coup à avoir, entre guillemets, un seul move qui, même s'il est toujours efficace, est neutralisé parce que l'équipe en face sait comment t'aborder, en fait. Je pense que, de manière générale, et ça rejoint un peu tout ce qu'on dit, mais toute l'année, quand tu joues en saison régulière, ce que tu vas faire, c'est que tu vas planifier ta propre offense. Tu la planifies sur un système général, tu la planifies sur tes forces et tu la planifies sur, sur ton roster. Et après, voilà, sur certaines choses, genre la rigueur, ce genre de choses. Si ton système marche et que tu es capable de dérouler, il n'y aura aucun problème. C'est ce que Milwaukee a été capable de faire les années précédentes, ce que Golden State faisait les années précédentes. Voilà. Sauf qu'une fois que tu arrives en playoff, bah, du coup, l'équipe en face, défensivement, elle a globalement, si tu as un seul système de jeu, ou alors que tu as une identité de jeu, ou alors même en tant que joueur, toi tu as un seul move, etc., l'équipe en face aura une seule chose à analyser, une seule chose à planifier, et du coup, bah, aussi bon que tu sois, aussi fort que tu sois, et peu importe qui tu es et ce que tu peux faire offensivement, tu peux tomber face à une équipe, après tu peux l'éviter, ça arrive de ne pas tomber sur les match-ups qui te permettent de t'en sortir, mais tu peux tomber sur une équipe qui sait effectivement très bien te défendre. Et ça, du coup, bah, on peut reprendre l'exemple de Milwaukee, tout simplement, c'est-à-dire qu'ils avaient leur système et ça fonctionne très bien. C'était une saison régulière, bon, c'est deux MVP pour Giannis, c'est des saisons où ils roulent sur tout le monde, sauf que du coup, bah, ils tombent face au Heat, l'année précédente face à Toronto, qui match-up très bien face à ce système-là, parce que non seulement ils l'ont bien analysé, qu'ils ont le roster pour, et qu'ils sont tout simplement prêts, en fait. Ils se sont préparés pour, l'effectif passe bien, le coaching, l'avantage du coaching va dans un sens qui n'avantage pas Milwaukee, effectivement. Mais du coup, voilà, si tu, entre guillemets, n'as qu'un seul système, ou alors que tu te focalises sur une seule chose, bah, ça sera plus facile pour l'équipe d'en face de gérer une fois les playoffs arrivés. Et ça, c'est aussi ça rejoint aussi un peu une des difficultés qu'on peut avoir en saison régulière, le fait que la saison régulière, c'est long, c'est un marathon, donc effectivement, tu as besoin d'un système qui te permet de perdurer, de performer et d'être assez serein sur toute la saison pour pouvoir t'en sortir. Le problème, c'est que quand tu arrives en playoff, tu as besoin, comme on vient de le dire, de plus de choses. Tu as besoin d'être capable de polyvalence, tu as besoin d'être capable de t'adapter si l'équipe en face a bien te match-up correctement, etc. Il y avait McHale de Houston, quand il y était encore, qui avait dit, je ne sais plus quelle année, si ton identité change de manière assez drastique en playoff, tu as des problèmes. Parce que du coup, ton identité ou alors le jeu que tu as en playoff, il faut que ça soit une extension de qui tu es. Il parlait de Houston à l'époque, mais il disait qu'il ne pouvait pas arriver et dire « Ok, bah, on ne shoot jamais à 3 points. Enfin, on va shooter une seule fois à 3 points en disant « Haha, vous avez fait une blague toute l'année. » La fin, ça a été grave marrante. Parce que du coup, là, juste après, on a assez parlé de Houston dans leur déboire. Mais voilà, c'est assez vrai aussi. C'est que c'est un peu la difficulté de la saison régulière quand... c'est pas vraiment la difficulté de la saison régulière, mais...
Il y a plusieurs façons de l'approcher.
C'est ça.
Il approche dans une idée que... Bah, Budenholzer, par exemple, c'est plus que Houston en finale. Je pense que Budenholzer, c'est genre le truc. Il y avait des. J'ai pas la côte en tête comme ça, mais. Dès que le but, c'est de parfaire ce qu'on sait faire de mieux. Genre, c'est cette idée-là qui nous poussait dans les saisons régulières. Il y a d'autres équipes qui se disent ça, on sait faire bien ça, mais si on fait faire ça bien aussi, peut-être que ça sera mieux que si on sait faire une chose de la façon exceptionnelle offensivement. Tu vois.
C'est cette idée
de ton identité, en fait, parfois ton identité elle est réduite, mais tu sais très bien la faire. Et peut-être que aujourd'hui on voit que tu as besoin d'une identité peut-être moins extrémiste, mais avec plus de polyvalence dans ce que tu sais faire et dans ce que tu peux faire, au cas où tu as un problème sur ta première option en termes d'identité, en fait. Mais tu as raison dans l'idée que, en plus, on discutait parfois, mais tu peux pas arriver en playoff et te dire que tu vas tout changer.
Ouais.
Parce que, au final, t'as rien préparé, en fait. C'est comme si tu disais que t'as un client à aller chercher, que bah, tu arrives et tu lui proposes un plan que tu n'as jamais vu de ta vie, et tu lui dis bah, c'est ça qu'on va faire. Le mec il va dire bah non, ça ne marchera pas, ça ne
voilà,
marchera pas,
clair. C'est fini. C'est ça. On en avait beaucoup parlé bah, off l'année dernière, de manière générale, avec Milwaukee et puis même Houston des années précédentes. C'est que c'est la difficulté quand tu as justement décidé d'approcher la saison régulière en tant que bah, tu perfectionnes ce que tu es capable de faire. C'est que si ça ne marche pas, et donc c'est ce que Bob Myers expliquait aussi, il prenait l'exemple d'un joueur, mais on l'a vu les années précédentes, si ça ne marche pas et que tu n'as pas pris l'habitude, ou alors que ton approche en saison régulière, ça n'a pas forcément été de tester plein de choses et tout, bah, tu te retrouves dans la merde. Tu te retrouves dans une situation où t'as pas d'autre option en fait. Et c'est...
Ouais, en fait, t'es obligé de mourir avec ce que tu
c'est
sais
ça.
Faire.
C'est
parce
ça.
Que, de toute façon, si tu fais pas ce que tu sais faire, bah.
Tu sais rien
pas
faire.
Pas ta star, mais tes roleplayers, eux, c'est mort, ils sont morts, c'est sûr.
Ils ont pas, voilà. Ils ont pas. Voilà, autant les top players sont peut-être capables, eux, de s'adapter, ou alors ils ont d'autres options, etc. Mais une bonne attaque, c'est aussi une attaque qui implique tout le monde. Et si ton attaque, pour impliquer tout le monde, elle a un seul système, bah, du coup, une fois qu'après tu te retrouves assez seul, en tant que joueur, bah, ça marche plus quoi qu'il arrive. Donc en fait, c'est ça. T'es tout simplement obligé de mourir avec. Et autre que les Bucks avec les deux années précédentes, bah, il y a l'exemple de Houston hein, 2018, c'est-à-dire qu'au bout d'un, au bout du, enfin, les joueurs sont capables de faire autre chose, l'équipe est capable de faire autre chose, mais tu te retrouves bah, à avoir.
Il y a aussi une question de succès. T'as eu, ils ont quoi gagné 60 wins avec ça genre,
ouais, non, mais bien sûr.
Donc tu vas pas dire que genre, tu vas pas balancer, même si c'est un game set ou quoi, c'est dur, même mentalement, de dire que tu vas balancer tout le succès que t'as mis dans une saison. Après, on peut dire que oui, ils n'auraient pas dû prendre 27 tirs à 3 points de suite, tu vois, mais...
Non, mais c'est ça, enfin, c'est la difficulté du truc, mais du coup, enfin, voilà, ça c'est le débat qu'on a eu un milliard de fois en off, et je suis d'accord dans l'idée, enfin, c'est difficile de changer du tout au tout, mais en fait, bah, soit c'est ça, soit tu meurs, enfin, assez souvent, c'est-à-dire que si un système t'a posé des problèmes jusqu'à maintenant, ou alors que, voilà, t'arrives en playoff, le système te pose problème... En fait, quoi qu'il arrive, t'es mort. Parce que soit t'as jamais travaillé, enfin, t'as jamais vraiment ouais, travaillé bah, de nouveaux systèmes ou alors des adaptations, etc. Soit tu meurs avec. Donc, c'est-à-dire que bon, ouais, t'as ceux qui vont, enfin, t'as ceux qui, généralement, les équipes s'obstinent et vont jusqu'au bout avec parce qu'ils se disent que de toute façon c'est trop tard et que, voilà, pour l'exemple de Houston, c'est 27, enfin, 23, je sais pas combien, 3 27, points d'affilée. Voilà, ils se disent, ouais, le prochain il va rentrer.
Bah, oui,
et au bout du compte.
Bah, forcément.
Non, mais c'est ça, il y en a deux qui rentrent, mais ils sont retirés. Enfin, bref, c'est des trucs de cons comme ça qui font que. C'est difficile, en fait, c'est, voilà, c'est tout simplement difficile quand c'est pas l'approche que tu as utilisée en saison régulière. Et pour avancer sur cette idée, c'est intéressant de noter justement que Milwaukee, là où les années précédentes, c'était une équipe, ils prenaient un système, ils roulaient sur tout le monde, ils allaient, et puis ils se retrouvaient premiers des années, enfin des mois avant que les autres soient même en playoff. Cette année, justement, ils ont abordé la saison régulière comme, entre guillemets, pas pour dire que les années précédentes ils voulaient pas être champions ou ils allaient pas forcément l'être, encore une fois.
Ouais, en fait, que c'était pas c'est pas le but en fait.
C'est ça, c'est ça. Parce qu'au bout du compte, l'année dernière, et je le pensais vraiment, mais c'est, ils seraient pas tombés sur le hit, on serait tombé face à quelqu'un d'autre, admettons qu'on perd pour X ou Y raison, et c'est une équipe qui peut aller en finale assez rapidement, ouais. C'est juste qu'ils sont tombés sur le mauvais match-up très vite et voilà, tu sors. Mais cette année, on a pu voir que du coup, leur approche de la saison régulière a changé. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas aussi dominants que les années précédentes. Yannis n'est pas top 1 MVP complètement, enfin, quasiment unanime, etc. Sauf qu'ils tentent beaucoup plus de choses. Donc, par exemple, sur le dernier mois, il y a eu une augmentation de, j'ai plus le pourcentage exact, mais des pick and roll entre Jrue Holiday et Yannis en tant que screener.
Ouais.
Donc, il y en a eu beaucoup plus. Et le pourcentage a aussi un peu augmenté. Donc, c'est quelque chose qu'ils ont fait sur la fin de saison. Tout au long de la saison, ils ont aussi beaucoup plus axé, enfin, ils ont beaucoup plus tenté, essayé, enfin, varié leur système de jeu, surtout en partant du strong side, enfin, du côté fort, du coup, donc le côté avec la balle et avec possiblement un écran plus quelqu'un qui cut, donc on va dire qu'ils sont d'un côté du terrain où ils sont trois. Il y a eu beaucoup plus de dynamique qu'ils ont essayé entre Jrue Holiday et Middleton, Jrue Holiday et Yanis, Middleton et Yanis, Middleton et Jrue Holiday, enfin, pareil, sur l'arrivée de Tucker, ils ont aussi essayé beaucoup plus de five out, même si c'est pas, voilà, c'est pas forcément la panacée, etc. Mais c'est des choses qui pouvaient être parfois un peu difficiles avec Lopez, parce que même si en termes de shoot il était tout aussi efficace, bah parfois défensivement avec Lopez c'est pas forcément la même, le même aspect en termes de switch.
Défensivement par exemple, ils sont mis à switcher.
Voilà,
c'est ça. Pas un truc
qu'ils faisaient les années précédentes.
Les épisodes précédentes.
Voilà, parce qu'avec Lopez, bah, du coup, aussi bon que Lopez soit, hein, parce que l'année dernière il était dans le classement des défenseurs de l'année même, mais il était sur un certain système, c'est-à-dire que Lopez il drop. Après il est très très bon à l'intérieur, sur le poste et tout, mais tu peux pas switcher avec Lopez. Avec Tucker, c'est des choses qu'ils sont capables de faire, donc ils jouent plus petit. Mais c'est quelque chose qu'ils maîtrisent et du coup ils peuvent se retrouver à être parfois dans certaines situations où si l'équipe en face bah, performe dans un certain système. Ok, ils l'ont. Même si ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont excellents là-dessus et qu'ils sont exceptionnels là-dessus, c'est quelque chose qu'ils savent faire. Ça veut dire que c'est quelque chose que tu as déjà fait, que tu peux aborder, et tu ne vas pas te retrouver avec Bobby Portis qui dit « Ah, mais comment je vais faire ?» C'est marrant, j'ai jamais fait ça de ma vie. Tu vois, du coup, c'est... Voilà, c'est l'idée, en fait, l'intérêt d'avoir tenté des choses pendant la saison régulière, et c'est ce que Toronto faisait, Toronto aussi, indépendamment du Heat, mais a fait les années précédentes, que ce soit offensivement ou défensivement. La saison, bon, eux, ils avaient la chance, dans le plus, ils s'en sortaient très très bien en saison régulière, donc c'était le beurre et l'argent du beurre, mais il n'empêche qu'ils abordaient ces saisons-là avec « Ok, on va tenter un peu tout ». Et donc, selon le jour où tu affrontais Toronto, pardon, l'état d'esprit de Nurse, tu allais tomber sur un système totalement différent des deux côtés du terrain, et du coup, toi, déjà, tu étais en permanente adaptation. Donc, ça veut dire que déjà…
Moi, c'est même pas que dans les matchs. Nous, on voit que les matchs, au final, mais parfois, ouais, il y a des équipes qui font ça dans cet entraînement.
C'est clair. Parfois, ça n'aurait pas eu ce play-off. Et c'est même d'autant, enfin je pense que du coup sur cette partie-là et sur la partie identité, c'est d'autant plus dur à évaluer pour nous entre guillemets en tant que fans, parce que comme tu dis, voilà, on sait pas tout ce qu'on peut voir, c'est ce qu'ils font sur le terrain, ce qu'ils font en training camp, ce qu'ils font pendant l'entraînement, impossible. Ouais, voilà, ce qu'ils font sur les réseaux aussi, ça. ça on le voit très bien. Mais pour le reste, on peut pas vraiment savoir ce qu'ils essayent de mettre en place. Mais en tout cas, généralement, tu arrives en play-off, tu vois assez rapidement quand une équipe elle est capable d'être polyvalente ou non. Ou plutôt, tu vois quand une équipe elle est pas capable de l'être.
Ouais,
je pense que voilà.
Quand il y a un problème.
C'est ça. Pour continuer un peu dans toute cette idée-là, est-ce que tu aurais quelque chose à dire sur le Maury Ball en play-off offensivement?
Je pourrais peut-être séparer deux choses. Mais on va parler d'abord de la variance et de tout ce qui... Le but du Maury Ball, c'est de prendre toujours les shoots les plus intéressants statistiquement pour un joueur moyen, en fait. C'est pas ça. Pour les stars. C'est ça, faut arrêter de créer ces trucs dans le mid-range. Il y a rien qui... Genre, une star, s'il veut prendre un shoot mec du milieu de terrain, son coach, il va dire, il a pris du milieu de terrain, il dira rien. Mais c'est plus pour les role-players, au final. Et le but, c'est d'avoir le plus possible de 3 points plutôt dans les corners. Les corners, c'est par exemple un truc de Utah. Utah, c'est genre, ça fait 3-4 ans.
Ouais.
Ils sont limite obligés par l'idée de prendre des corners free le plus possible. On n'en parle pas comme une équipe qui prend beaucoup de 3 points, mais Quinn Snyder, il veut que des corners free. Et avec ce qu'ils font, c'est avec des pick and roll pour Gobert et le kick out, la passe facile dans le corner. Et donc, c'est pour avoir les 3 points. Et par exemple, Milwaukee, dans un sens, c'est aussi une équipe qui vit dans cette idée-là, défensivement, qui vivait comme ça. Et donc le but, c'était, avec le drop et de ne pas switcher, c'était d'empêcher l'adversaire de prendre ces fameux corner fruits qui ont plus de valeur intrinsèquement que les fruits sur l'arc, en fait. Et aussi des lay-ups. Et donc, le problème de l'idée du Maury Ball dans un petit échantillon, c'est que, surtout avec des shooters moyens, c'est qu'en fait, tu ne peux pas prévoir si le mec il va être chaud ou froid à un moment, tu vois.
C'est
en playoff, c'est en gros, il y a des mecs qui prennent feu, qui font 60% à 3 points, et toi tu dis le prochain il va louper, et soit tu dis il va louper le prochain donc on va pas le défendre, et soit tu vas commencer à défendre, à limite surinterpréter le fait qu'il mette le 3 points, et ça va ouvrir autre chose au final. Je pense que le plus grand exemple dernièrement, c'est Van Vliet face à Milwaukee. En vrai, je pense qu'il y a... J'ai pas regardé le... Je crois que c'était 50% à 3 points face à Milwaukee, face aux Warriors. C'était genre indécent.
Il rentrait tout. Absolument tout. Et il savait pas comment gérer.
Il devait être papa ou je sais pas quoi.
C'est ça, en plus. Il venait d'être père et donc ça y est, trop fort.
Et en gros, soit... Et donc l'exemple contraire, c'est Houston qui loupe ses 27 3 points de suite de toute l'équipe, en fait. Mais soit, en fait, il y a un mec qui devient chaud et qui est dans la zone et ça change complètement un match, voire une série. Ou soit, comme Houston, tu mets les pieds dans le plat. Et... Donc après, l'idée, c'est que, comme si ton identité, tu ne peux pas changer. Mais... Donc en fait, la variance, ça fait totalement partie des playoffs. En fait.
C'est ça. Pour compléter, donc voilà, comme tu dis, le Maury Ball, c'est l'idée de prendre les shoots les plus efficaces statistiquement. Donc les 3 points dans le corner et jouer à l'intérieur.
C'est surtout plus dans une idée de team, de prendre des shoots.
C'est équipe. C'est Chris Paul ou LeBron, il veut prendre le shoot qu'il veut, ou même Curry. Personne va empêcher. Même si Jordan, il avait joué aujourd'hui. Même Lavine. Bref, n'importe quel joueur qui est bon, globalement, ou qui est efficace dans les endroits qui sont pas statistiquement avantageux, on va dire. Il peut prendre les shoots qu'il veut. Enfin, Chris Paul, tu le fais venir parce que tu as envie qu'il snake le pick and roll et qu'il te mette des mid-range. Tu le fais venir pour ça. Donc, c'est-à-dire que
bizarrement,
lui...
bizarrement, Derrick Bray, il accepte que Joel Embiid, il prenne des... Ils prennent des fadeaways.
Ouais. Enfin, c'est clair. Enfin, c'est, voilà. Alors que c'était pas du tout dans leur identité à Houston. Mais voilà, maintenant même Embiid, cette année, il a été incroyable à mi-distance. Bah, il prend les shoots qu'il veut et personne lui casse les couilles. Mais l'idée, c'est que effectivement, le Morey Ball, c'est intéressant parce que statistiquement, ça a de la valeur. Statistiquement, ça a de la valeur. Pourquoi ? Parce que c'est les shoots les plus avantageux, mais parce que tu as un échantillon énorme. Tu as un échantillon de 82 matchs. Ça veut dire que même si un soir, t'es pas spécialement bon ou que tu les rendes pas, t'as 81 autres matchs où de toute façon...
Ouais, c'est ça.
Voilà,
sur les 82 matchs, ça va forcément aller dans ton sens au final.
C'est ça, la variance, c'est intéressant parce que ça finit par s'équilibrer. Donc en saison régulière, c'est super utile et c'est pour ça que Houston, sur les années précédentes, quoi qu'il arrive, bah, tu te retrouves à avoir un système qui fonctionne et qui est hyper efficace. Et puis c'est un truc avantageux, pareil pour Milwaukee comme t'étais en train de le dire. Et plus t'as un échantillon énorme, plus le Morey Ball sera efficace. Sauf que quand tu arrives effectivement en playoff, bah, tu n'as plus 82 matchs. Tu as 4, 5, 6 ou 7 matchs. Sur 4, 5, 6 ou 7 matchs,
enfin, le meilleur jeu. Si tu en as deux qui
tu bah, c'est si mort. Mais c'est sûr, surtout qu'en plus, parfois, tu as l'avantage du terrain, donc tu le perds. Et puis tu te retrouves mentalement, ça ne va plus. Donc après, tu as du mal à shooter par la suite parce que du coup, tu t'es dit que tu n'avais rien mis avant. C'est quelque chose où l'approche mentale, tu peux pas être aussi long-termiste que tu l'as été en saison régulière parce qu'il n'y a pas de long terme en fait. Une ou deux erreurs et tu es mort. Du coup, c'est pour ça que c'est parfois quelque chose qui est ultra présent en saison régulière aujourd'hui. Enfin, on voit à quel point toutes les équipes shootent et quand, pour ceux qui connaissent Kirk Goldberry, là, qui envoie tous les deux mois son graphique en disant « Le midrange, j'ai mort !»
Il est 10 000 balles pour poser
tout le temps. Lui, il est payé des... Voilà, il va mettre son graphique où il dit que le midrange est mort et on voit que tout le monde prend des shoots dans la raquette et à 3 points. Bah, tu te rends compte que déjà en playoff c'est beaucoup moins possible, mais que de toute façon, enfin voilà, c'est beaucoup moins intéressant. Moins l'échantillon est grand, enfin... Moins l'échantillon est grand, moins le concept du Morey Ball est intéressant. Et c'est pour ça que tu as besoin en tant que joueur d'être capable de t'adapter, d'être capable de prendre les shoots que la défense offre. Et tout bêtement, en fait, c'est aussi lié au fait que la défense la plus utilisée en saison régulière, c'est le drop. Voilà, ouais. Comme tu disais tout à l'heure, c'est effectivement t'as un joueur qui va venir poser un écran pour le meneur de jeu ou le garde qui a la balle. Le joueur qui met l'écran, bah, du coup, il drop, il descend dans la raquette pour pouvoir limiter l'accès au cercle, pendant que le joueur qui marque le garde essaye de passer au-dessus de l'écran pour l'empêcher de prendre un shoot difficile. Sauf que du coup, si tu fais souvent ça en playoff, le shoot qui t'est offert, c'est le mid-range. Alors, les meilleurs joueurs de la ligue sont généralement assez bons sur le mid-range. Et de toute façon, voilà, ce qui va te permettre d'exister en play-off et de performer, en fait, c'est d'être capable de punir ce mid-range. Et c'est ce qu'on a pu voir, par exemple, pour reprendre des séries qui sont assez représentatives de toute cette dynamique-là. L'année dernière, Milwaukee, ils ont beaucoup fait ça. Bah, t'as Dragic qui, Phil Day, en fait, ouais. Il s'éclate, quoi. Il dit, ok, bon, vous me le laissez, je le prends. T'as Hero qui a aussi, bon, Boston n'a pas énormément défendu un drop, mais c'est-à-dire que quand Hero avait des mid-range, il les rentrait. Jimmy Butler, pareil, quand il en avait, il les rentrait. Davis, l'année dernière, bon, il a shooté à 50%, 56% ou je sais plus combien.
Il y a l'idée du mid-range, mais aussi l'idée qu'au final, ce mid-range il n'est pas contesté au final.
C'est-à-dire que c'est un shoot, c'est pour ça que je dis que c'est un shoot qu'on t'offre, c'est que la défense, elle n'est pas là devant toi, en fait. Elle part du principe que tu vas prendre autre chose ou qu'elle a envie de t'empêcher de faire autre chose. Sauf qu'au bout d'un moment, Davis, voilà, ils ont gagné avec ça, quoi. Si tu lui laisses le shoot, il shoot à 60%, ok, il n'y a pas de problème. Au bout du compte, c'est deux points quand même, et c'est les mêmes points que Daily Ops.
C'est plus que zéro. Donc,
c'est ça. Et surtout quand tu pars du principe que les shoots au cercle que tu peux prendre, il y aura moins de lancers francs.
Ouais,
donc ça veut dire que même ça, tu vois, l'efficacité que tu as sur le Morey Ball, que ça soit statistiquement en termes d'échantillon, mais même en termes de points vraiment effectifs, en fait, le mid-range devient de plus en plus intéressant une fois que tu es en playoff. Et ça devient de plus en plus crucial pour les joueurs, pour les bons joueurs, les top players et ceux à qui on va l'offrir tout simplement, d'être capable de le rentrer. Et du coup, c'est marrant d'enregistrer ça ce matin parce que du coup, Green, hier, pour ceux qui ont vu Memphis face à Golden State, c'est le shoot qu'ils lui ont offert littéralement tout le match ou même presque toute la saison pour lui. Et c'est pas le shoot qu'il peut prendre, c'est pas un shoot qu'il veut prendre, c'est pas un shoot qu'il a envie de prendre, c'est pas un shoot qui...
Dans sa tête, il n'existe pas.
Et c'est ça, il regarde pas l'arceau dans ces situations. Du coup, ça a posé problème et ça pose problème offensivement et ça pose encore plus de problèmes, un playoff. Et c'est même ce qu'on peut voir parfois avec des stars aussi. Quand tu laisses le mid-range à Giannis et que certains matchs il te le met, mais à d'autres non, que plus tôt dans sa carrière, parfois c'était un shoot que les gens laissaient à LeBron, mais que du coup, il prenait pas. Ou encore une fois, pour reprendre l'exemple de Houston, c'était un shoot qu'on lui laissait quand ça, c'était full Morey Ball, mais que du coup, il allait tenter de ressortir pour faire un step back, ou qu'il allait forcer pour aller dans la raquette. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, et c'est pas forcément le cas tout le temps face à toutes les équipes, mais il y a des situations ou des match-ups ou des moments où c'est le shoot qu'on va t'offrir. Et si t'as pas un joueur ou quelqu'un qui est capable soit de step up et de les rentrer, soit un joueur qui est bon dans ce domaine-là, bah tu vas avoir des problèmes. Et donc en termes d'effectifs, en termes de roster, ça c'est quelque chose dont tu peux avoir besoin effectivement en playoff et dont tu as vraiment, vraiment moins besoin en saison régulière. Tout bêtement, en playoff, en fait, scorer efficacement deviendra plus utile et plus important que scorer tout court. Et ça, c'est une dynamique que tu retrouves dedans. Est-ce que t'as... j'avais un autre truc à dire aussi, c'est qu'effectivement, en saison régulière, par rapport au système et aux équipes, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes, les bonnes équipes et les équipes expérimentées, qui jouent beaucoup sur... elles sont bonnes parce qu'elles profitent des erreurs adverses. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que sur le long terme, sur toute la saison, une équipe qui est tout le temps là sur les box-out, qui redescend bien sur les transitions défensives, qui profite des turnovers ou des passes un peu des loose passes qui sont vraiment assurées, etc. Ce genre d'équipe, c'est ce qu'on avait avec les Spurs depuis 150 ans, ils seront bons parce qu'ils font ça. C'est-à-dire que t'es rigoureux, tu box out bien, t'es solide, les équipes en saison régulière, la saison est longue, comme on l'a dit tout à l'heure.
Tu perds pas le ballon, tu gagnes le match du jeu des possessions.
C'est ça, voilà, exactement. En saison régulière, il y a beaucoup plus ce jeu de possession qu'en playoff. Donc si t'as beaucoup plus de possession que l'adversaire parce que tu perds pas la balle, parce que tu box out bien, que du coup t'as des rebonds, que t'es plus rigoureux tout simplement, c'est un facteur qui va vraiment, vraiment, vraiment te permettre de performer en SR. Là où en playoff, tout le monde l'est en fait. Globalement.
Il y a aussi le truc, au final, comme il y a beaucoup d'équipes qui appliquent au final le Morey Ball et qui défendent dans le but de limiter cette idée-là, quand tu es une équipe qui joue beaucoup de mid-range en saison régulière, tu as tendance à avoir beaucoup de shoots finalement ouverts. Et donc, tu as tendance à pas forcément. En fait, c'est une façon. Il y a des gens qui font le yin et toi qui fais le yang et au final, tu gagnes sur ce point-là.
C'est ça.
Les Spurs, c'est une équipe qui a fait beaucoup ça ces deux dernières années. Je vais pas dire qu'ils ont fait ça avant, mais.
Plus récemment.
Post-Kawhi, c'était vraiment une équipe. Indiana aussi, l'Indiana de Nate McMillan.
Ouais, exact.
Qui prenait peu de 3 points, mais au final. Prenait tellement de mid-range et avait tellement un pourcentage élevé au mid-range que
ça devient efficace.
Que ça devient efficace parce qu'au final, c'est des shoots qui ne sont pas défendus par la majorité des défenses en saison régulière.
C'est ça. Et par exemple, ça va de pair avec même leur effectif. DeRozan, c'est un shoot qui lui est souvent offert et puis il navigue très bien dans les défenses. Et si l'équipe en face, elle essaye de bloquer le Morey Ball alors que de toute façon, DeRozan n'est pas bon à 3 points et que tu lui offres le mid-range, il n'y a pas de souci. C'est ça. Et donc, c'est des équipes qui arrivent à performer sur le long terme. Parce que le système est léché et qu'il profite un peu de... Il profite, c'est con à dire, mais il profite du format de la saison régulière. Et c'est pas dit en mode critique, c'est vraiment une bonne chose. Mais c'est voilà, si t'es une bonne équipe, que t'as un bon roster et que tu sais profiter des erreurs en face, du manque de rigueur et de tout ce qui s'ensuit, c'est quelque chose qui te permettra d'être rempli de réussite pendant toute une saison et même parfois année après année. Un dernier point sur lequel je voulais... intervenir sur l'attaque que tu peux retrouver en playoff, c'est que il y a beaucoup plus de targeting, c'est-à-dire que il y a beaucoup plus de ciblage, que ça soit en face, admettons que t'es un big un peu lent et du coup qu'il ait du mal une fois qu'il soit sur le périmètre, ou alors qu'il ait du mal à se replacer, ou qu'il ait du mal à couvrir défensivement sur les transitions, il va souvent être justement les équipes en face vont tenter de l'isoler, de le mettre sur une île, en tout cas de le jouer en iso, et puis tenter de vraiment appuyer sur le fait que soit du coup il soit pas assez rapide pour t'empêcher de prendre un shoot à 3 points, soit il soit pas assez rapide pour t'empêcher de pénétrer parce que tu le fais danser et tu finis à l'intérieur assez facilement. Inversement, si tu as un guard qui est un peu faible physiquement parlant, ou alors qui est un peu en dessous de la norme, que ce soit Kyrie, que ce soit Curry même pendant les grands
affrontements.
Trae Young aussi, c'est clair. Isaiah Thomas, l'époque où même il était complètement incroyable, dès que c'était l'autre côté du terrain, offensivement c'était hey amenez-moi le nain là amenez-moi Tyrion là, parce que du coup c'est ça, c'est que tout le monde essaye de tout simplement que ça soit le jeu au poste, que ça soit le bully ball, et c'est même ce qu'on pouvait voir un peu l'année dernière avec Enfin, c'est quelque chose que Butler, il aime bien faire aussi sur beaucoup de gardes, vu qu'il a tendance parfois à jouer deux et qu'il est relativement physique pour ce genre de choses. Bah, il chasse tout simplement des match-ups où il
ouais,
a...
Ouais, shooting, ouais.
C'est ça.
Il y a LeBron qui fait ça sur tous les
il y a un... putain 25 possibles. Ah, mais c'est insupportable, c'est ça. LeBron, lui, toute sa vie, enfin, voilà, il vit sur ça.
Au final, il n'y a même pas que ça, c'est que... Déjà, il y a des équipes qui savent pas le faire en... Qui savent pas vraiment, des joueurs qui savent pas vraiment le faire. Genre Kawhi, LeBron, Butler, il y a beaucoup de big, par exemple, il y a des équipes qui savent pas mismatch hunt bien, mais il y a aussi une idée que genre quand tu fais du mismatch hunting et tu as un joueur qui est capable de faire la bonne passe, tu sais que l'adversaire, il est un peu nerveux sur cette situation-là, donc il va forcément t'offrir,
ouais.
Il peut peut-être pas t'offrir un mismatch, mais t'offrir autre chose, et si ton joueur est capable de faire la bonne passe ou de voir la bonne passe, bah, tu vas gagner autre chose. Seulement en demandant la mismatch, parce que l'adversaire ne voudra pas la donner.
C'est ça. Bah, littéralement, enfin, c'est l'exemple, c'est LeBron. Hein. C'est-à-dire que bah, il chasse un mismatch, et puis si tu le défends correctement, ça veut dire que tu as dû lâcher quelque chose pour le défendre correctement. S'il y a eu un mismatch et que du coup, le défenseur dans le corner, il est obligé de venir aider pour empêcher que LeBron ait une pénétration gratuite, bah, du coup, c'est un kick-out ultra facile. Il est capable de faire des pocket passes d'un peu partout. Si le big à l'intérieur, il est obligé de tag à la fin parce que LeBron est en train de s'approcher du panier et qu'il y a un truc ouvert, bah, là, c'est une pocket pass assez, ou même un lob gratuit. Ouais. C'est ce qu'on a pu voir avec Davis. Donc, c'est ça. Ça rejoint pareil encore l'idée de la polyvalence d'un joueur, mais si t'as quelqu'un qui est capable de mismatch hunt, de rentrer ses mid-range et en plus de servir quelqu'un sur un kick-out ou sur une ouverture en fait, bah là ça devient c'est un peu la quintessence de ce dont tu peux avoir besoin offensivement et c'est pour ça que ça
permet aussi des limites d'éliminer des joueurs. Il y a des joueurs qui peuvent pas jouer en playoff parce qu'ils vont se faire mismatch.
Ouais. Ah ouais, bah c'est clair.
Donc au final quand tu payes un joueur il y a des joueurs qui sont payés limite que pour la saison régulière. Ray Anderson à Houston, c'était un joueur qui, dès qu'il fallait affronter les Warriors, il prenait ses bagages et il savait qu'il ne mettait plus le maillot. Quoi.
Donc, c'est ça.
Et c'est des joueurs qui t'aident en saison régulière parce que c'est des joueurs qui te permettent soit de faire des écarts plus facilement, soit de gagner des matchs. Et en playoff, c'est des joueurs qui, au final, quand tu veux, ça dépend en fait. Il y a des équipes qui n'ont pas le choix que de faire jouer ces joueurs-là. Mm-hmm. Et genre, mais quand tu as le choix, il y a des coachs qui vont dire bah, non, bah, lui il va pas jouer parce que je sais que défensivement bah,
ça passera pas. C'est ça.
Et c'est aussi, on a aussi ça avec les pivots face à des équipes qui sont capables de jouer de, genre, des five out ou des choses comme ça. Il y a des pivots qui ils sont en fait mis hors d'état de nuire. Genre.
C'est ça. Bah, c'est même l'idée de Lopez au bout du compte. Je pense pas qu'il va pas du tout être utilisé en playoff et compagnie. Mais enfin, les arrivées qui sont nues et les systèmes qui ont été tentés cette année, bah, c'est littéralement quelque chose du style non, il faut qu'on joue différemment. Et c'est ce qu'on peut voir avec énormément de joueurs, même parfois du coup avec les joueurs unidimensionnels dont parlait Myers. Mais voilà, enfin les shooters, parfois tu arrives en playoff, bah, si déjà tu es unidimensionnel au shoot et que du coup on arrive à bien te défendre, mais que du coup une fois que tu es de l'autre côté du terrain, tu n'arrives pas à tenir, bah, c'est mort en fait. Et c'est ce qu'on
a. Il y a des shooters aussi que tu sont des shooters en saison régulière et en playoff. C'est le joueur qui limite, il est forcément bien défendu.
C'est ça.
C'est parce que tu sais que lui, si tu lui donnes un 3 ouvert, c'est automatique, il va le mettre. Il va des 2-3 ouverts qu'il va avoir en saison régulière, bah, il les aura pas en playoff.
Ça rejoint un peu, d'ailleurs, l'exemple. Enfin, c'était utile quoi qu'il arrive, mais ça rejoint un peu Duncan Robinson pour le prendre. L'année dernière, c'était un joueur qui était assez unidimensionnel, donc c'est-à-dire qu'il avait son shoot. Défensivement, il n'était pas aussi solide physiquement qu'il était aujourd'hui. Il n'avait pas encore l'aspect de passe qu'il avait aujourd'hui, ou en tout cas l'aspect relocalisation, etc. Il s'est fait très bien défendre par Milwaukee, donc c'était parfait parce que du coup ça libérait un joueur. Et c'était pareil par Indiana parce que du coup ça libérait un joueur. Face à Boston, bah, du coup c'est. Dans certains cas, ça reste complètement utile parce que tu forces la défense à collapse, tu forces la défense à s'adapter. Mais une fois arrivé en finale, bah, du coup les Lakers ont été capables de complètement le neutraliser parce qu'il était bien défendu d'un côté du terrain et que de l'autre côté du terrain, bah, c'était du mismatch hunting en permanence, et donc il prenait beaucoup de fautes, il n'était pas capable d'impacter et c'était field day de l'autre côté quoi. Donc c'est ça, c'est certains joueurs qui du coup aussi important qu'ils soient en saison régulière, et je pense que c'est bien que tu l'aies dit d'ailleurs parce que c'est quelque chose qui a tendance à parfois être un peu négligé. Ouais, ok, le mec est mauvais en saison régulière, enfin il est mauvais en playoff, donc c'est non, un bon joueur en saison régulière ça reste quand même utile. C'est un joueur qui te permet d'avoir bah, parfois l'avantage du terrain, c'est un joueur qui te permet d'avoir des victoires qui peuvent être importantes, qui peuvent te permettre d'avoir un seeding avantageux, qui peuvent te permettre d'avoir un match-up qui te permettra de t'en sortir. Mais c'est ça, c'est des joueurs, une fois arrivé en playoff, tu vas devoir t'adapter.
En fait, leur rôle il est minimisé. Après, Duncan Robinson, c'est un joueur qui au final il a réussi, c'était ses premières playoffs, je crois.
Ouais.
Et il a réussi finalement sur ses sur la totalité des playoffs, il a réussi à avoir une sorte en fait, de rendement genre, qui permet de. Tu perds pas finalement
Ouais.
à ce qu'il soit sur le terrain. Il y a des joueurs qui sont. Bah, rien, je parlais de. J'en ai pas trop en tête, mais il y a des joueurs qui sont capables. Le rendement, il est tellement mauvais offensivement en playoff que si tu peux. En fait, tu perds tout. Mais après, c'est pas des joueurs que. Ça veut pas dire que tu dois pas payer les joueurs à la
C'est ça.
fin de la
Bah,
saison, etc.
un exemple tout de suite, là, tout de suite, ça aurait été Bertans. Après, voilà, c'est son adresse qui a fait défaut et il y a plein de choses qui ont poussé sa saison à pas forcément être aussi bonne qu'elle pouvait l'être. Mais lui, c'est le type de joueur qui, effectivement, quand il a pas forcément l'aspect de passe ou même la relocalisation ou la le, vu que l'adresse n'était pas là, il pouvait même pas forcément forcer l'équipe adverse
Ah ouais, c'est ça.
à collapse ou alors en tout cas à forcément écarter le terrain et tout. Donc en fait, offensivement, il n'était pas dedans, il servait pas à grand-chose et défensivement, bah non. Et du coup, c'est ça, si tu te retrouves à avoir des situations où le joueur, tu peux juste pas le faire jouer en fait. Et c'est comme tu dis, ça ne veut pas forcément dire que tu dois pas le payer. Il a eu son argent et il y a énormément d'autres équipes qui lui auraient donné. L'année prochaine, il shootera sûrement mieux et tout. Mais ça t'oblige en fait à avoir à changer en fait ton approche tout simplement. Et avant du. Enfin, je ne sais pas si tu auras un dernier point sur l'attaque, mais ça.
Ouais, j'en ai un autre.
Bah, du coup, ça, là, par rapport à ce qu'on est en train de dire, c'est que. Par rapport à la profondeur de banc, et ça rejoint un peu, que ce soit l'attaque ou la défense, mais. On a tendance parfois à mal évaluer la profondeur, que ce soit en saison régulière ou en playoff. Et parfois, il y a certaines équipes qui vont avoir tendance à être bah, peut-être justement surévaluées ou alors surcotées parce qu'elles ont
On a
beaucoup
12
de.
joueurs, on est 10.
Non, mais c'est ça, voilà, c'est ça. Tu vois, on a 12, on a 15 joueurs, notre 15e joueur, il est trop fort. Sauf que déjà, non seulement, comme on l'a dit tout à l'heure, les starters jouent beaucoup plus en saison en playoff, donc ça veut dire que, de manière générale, ta profondeur de banc, elle a moins d'impact. Mais surtout, je pense que la notion qui est importante sur la profondeur en playoff, c'est que tu n'as pas nécessairement besoin. Et ça, c'est un truc que. Enfin, j'avais lu ça dans un article et je trouvais que c'était bien exprimé, mais t'as pas forcément besoin d'avoir la plus de profondeur possible, t'as juste besoin d'être capable de remplacer la pièce qui va te manquer. Et ça veut dire dans le style de jeu. Donc, l'exemple qui a été donné, c'était l'année où Kawhi, même ils finissent par sortir Houston, là, les Spurs, où Kawhi n'est pas là, et t'as Jonathan Simmons qui est capable de le remplacer dans son.
Ouais,
Voilà, dans le rôle. En fait, jamais de la vie, ils ont le même niveau de jeu, c'est même pas un débat. Sauf que si le joueur dont tu as besoin, c'est un, je sais pas, un rim runner, ou alors c'est un 3 athlétique qui est capable d'avancer, enfin, de finir au cercle, de rentrer des alley-oops et d'être capable de pousser le jeu sur transition, si tu as un joueur qui n'est pas forcément aussi bon, mais qui est capable de rentrer exactement dans cette case, bah, globalement, ton système ne changera pas, ou ce que tu essayes de faire ne changera pas. Là où, si tu peux avoir de la profondeur de banc, si au bout du compte, ce que tu perds, t'es pas capable de le remplacer, bah là, en fait, quoi qu'il arrive, peu importe ta profondeur, tu n'arriveras pas à t'en sortir. Et je pense que ça, c'est le truc qu'on a vu l'année dernière avec Miami, justement. Bon, c'est le deuxième et le troisième meilleur joueur de l'équipe. Donc, quoi qu'il arrive, ça aurait été compliqué. Mais Dragic, par exemple, son rôle dans l'équipe du Heat, c'est le meilleur joueur quand il s'agit de créer de la percussion. C'est-à-dire que c'est le meilleur joueur pour créer du drive et de forcer la défense à collapse et de s'adapter par la suite. Tous les playoffs et toute la saison, Hero et Kendrick Nunn, etc., etc., ont été bons. Sauf qu'ils étaient bons parce que justement, ils profitaient du fait que Dragic était la personne qui créait ce drive and kick. Même Butler en profitait, même Bam en profitait. Une fois qu'il s'est blessé, c'est-à-dire qu'il y avait encore la possibilité de créer d'autres choses offensivement, etc. Enfin, l'arrivée d'Olynyk a créé un match offensif énorme et tout. Mais Hero n'a pas été aussi bon qu'il l'a été avec Dragic toute l'année. Nunn, pareil. Enfin, c'est des trucs où, en fait, son rôle à lui, il est tellement impossible à remplacer dans cette équipe et dans ce système que, du coup, peu importe la profondeur que tu as après, Myers-Leonard qui est capable de rentrer ses shoots ou alors Olynyk qui est capable de faire un match bref, peu importe, bah, du coup, ça change rien parce que fondamentalement, il manque quelque chose à ton équipe. Là où, pareil, c'est. Les années précédentes, mais si pas face à Golden State, mais quand il était encore aux Spurs, si Kawhi se blesse et que tu as besoin bah, de quelqu'un qui est capable de défendre et d'être long et d'avoir de l'envergure et d'être capable de passer au-dessus des écrans et que ta rotation c'est OG Anunoby, bah ça passe parce qu'effectivement il est pas aussi bon, mais il sera capable peut-être de rentrer les corners que tu lui enverras, il sera capable de défendre relativement bah, de la même manière, et donc en fait ton identité de jeu, tout bêtement, vu qu'on en parlait tout à l'heure, ne change pas. Et je pense que sur la profondeur de jeu, c'est vraiment l'idée qui doit primer plutôt que d'avoir tout
ouais,
bêtement.
Ouais,
voilà.
Ouais, en fait, au final, c'est soit d'avoir des joueurs qui peuvent remplacer. Je pense que les stars, c'est compliqué.
Oui,
Je pense que
c'est
j'en veux
clair.
pas une équipe qui ne peut pas remplacer une star qui est blessée. Mais je pense que tu as besoin de joueurs qui soient capables de faire plus que ce que tu leur demandes de faire, en fait. Et que même si, par exemple, tu as un joueur, même pas qui est blessé, mais un joueur qui a un rendement moins
Ouais.
élevé. T'as peut-être besoin que d'autres joueurs soient capables de faire plus que ce que tu dois, qu'ils font en saison régulière. Je pense que j'aime bien l'idée d'élite role-player au final. Genre Iguodala, c'était complètement ça. Marc Gasol à Toronto, je pense que ça rentre dans cette idée-là. C'est qu'ils lui demandent pas, en saison régulière, ils ne vont pas demander beaucoup. Mais quand il a fallu trap Curry à 50 mètres du panier avec Fred Van Vliet, bah, il était là. Pareil, Fred Van Vliet, quand Kawhi se blesse, Fred Van Vliet et Kyle Lowry sont capables d'avoir une plus grande importance dans l'équipe au final.
C'est ça.
Et donc je pense que là, on parlait de la rotation des joueurs que tu es obligé de bencher au final. Tu as besoin d'autres joueurs qui soient capables de peut-être prendre une chose ou, deux choses que ça va faire ce joueur que tu dois bencher parce que tu peux pas l'utiliser. Et donc c'est là où la profondeur est intéressante.
C'est ça. Du coup, tu disais que tu avais peut-être un autre point à ajouter sur l'attaque de manière générale.
Je pense on parlait de Milwaukee et de Houston, et je pense qu'il y a une autre idée qui est. Et je pense que Dallas va rentrer dans ce plan-là, c'est que si toute ton attaque tient sur un seul joueur, t'as un problème en play-off.
Ouais.
Peu importe le joueur aujourd'hui, je pense que t'as un problème en play-off. C'est cette idée de l'héliocentrisme qui marche très bien en saison régulière. Et qui permet d'être à beaucoup de joueurs d'être MVP, mais qu'en playoff, tu as besoin d'avoir pas forcément des menaces ou des ce qu'on appelle des armes plus de shooting, mais tu as besoin d'autres joueurs qui soient capables de pousser la défense à réagir à d'autres actions, pas forcément seulement des catch and shoot, genre à collapser la défense différemment. Et quand on a regardé par exemple les playoffs de l'année dernière, je crois qu'il y a Mike Prada qui avait dit que en fait les quatre équipes qui sont en finale de conférence, c'est un peu une émulsion de ce qu'étaient les Warriors dans des versions différentes, dans leur capacité à casser les défenses de différentes manières avec différents joueurs. Et on voit aussi, même en saison régulière, c'est visible, avec certaines équipes qui sont capables de, et avec la profusion des line-up avec trois porteurs de balles, OKC l'année dernière, ils sont pas aussi bons que Houston en playoff, mais ils sont pas moins de, un game set, tu peux toujours le gagner. Avec trois joueurs qui sont capables au final,
de porter la balle,
quelque chose avec. Donc je pense que c'est quelque chose aussi. Peut-être que cette année ça va changer, je sais pas, mais avoir plusieurs joueurs qui soient capables d'influer en premier initiateur sur une défense, je pense que c'est important en playoff.
J'avais à peu près, j'avais globalement le même point en me disant qu'effectivement, si tu as un seul joueur qui est capable, qui a besoin de porter la balle en permanence,
qui a l'attention de
c'est quasiment impossible. C'est ce qu'on a pu voir année après année avec Lillard. C'est ce qu'on a pu voir même avec Harden, qui au bout du compte est complètement capable de faire la n'importe quelle passe que tu lui demandes s'il est doublé. Mais en fait, parfois, tu vas avoir besoin d'autre chose. Tu vas soit avoir besoin, effectivement, que ton attaque soit moins héliocentrée, donc ça veut dire avec plusieurs porteurs de balles, etc. Mais même comme ça, je pense que tu as besoin soit d'un deuxième joueur qui est capable de créer le jeu. Donc ça veut dire, capable de porter, de créer, pas seulement pour lui, mais pour les autres, parce qu'effectivement, s'il est capable de créer que pour lui et que la première option elle est prise, c'est ce que tu te retrouves avec. C'est ce que tu as avec Portland. McCollum, il est capable de mettre n'importe quel point, sauf qu'au bout du compte, ça ne suffit pas. C'est des choses qui ont tout le temps posé problème et tout. Et donc, un profil qui est souvent ultra, ultra intéressant, c'est. Enfin, ça va être la capacité du troisième joueur ou du troisième meilleur joueur, soit de créer le jeu, soit de réorienter un minimum. Ça veut dire que ça, c'est ce que tu as toujours eu avec Green et Golden State. Ouais. Bon, cette année, du coup, vu qu'il n'y avait pas de deuxième joueur capable de créer quel que soit l'offense, c'est que lui non plus, c'était pas trop son option, son plan, c'était pas trop possible. Ouais. Mais quand il y avait Clay, c'est ça. C'est que même quand les deux sont bien défendus, si c'est Green qui a la balle, il sera capable de servir soit le pivot qui va tenter de faire un lob, soit un kick-out pour Barnes quand il était encore capable de shooter correctement. À Golden State, j'entends, ou alors même de resservir une des deux premières options qui a réussi à se relocaliser. Et ça, c'était d'autant plus visible et présent avec Golden State parce qu'il se relocalisait en permanence. Mais du coup, c'est même quelque chose, pour reprendre l'exemple de Portland, qui a pu manquer un peu quand soit Nurkic n'était pas là, soit quand il n'était pas forcément énorme dans ce rôle-là. C'est que si ce mec-là, il n'est pas capable de faire la passe en plus, de relocaliser, ou alors même lui-même, dans ce cas-là, d'aller créer son propre panier, du coup, en fait, tu manques de quelque chose. Et c'est un peu, du coup, ce qu'on a même pu voir l'année dernière avec Boston. C'est-à-dire que quand Hayward était là, que ce soit en play-off ou en saison régulière, ça te permettait d'être ce troisième joueur qui va te permettre de casser la zone. Parce que si tu lui fais la passe en point de fixation, c'est lui qui va rentrer son mid-range, ou alors il est capable de sortir pour les corners ou d'aller au panier, etc. Quand il n'était pas bon, du coup, il se retrouvait complètement limité, alors qu'effectivement, tu avais un Tatum qui devenait bien meilleur en termes de création. Tu avais effectivement un Brown qui rentrait littéralement tous les shoots qu'on lui demandait de rentrer, et 58% à 3 points, enfin bref, peu importe. mais il manquait justement la troisième, parce que bon, Kemba n'était pas forcément dedans, il manquait cette troisième pièce, ce troisième, enfin voilà,
en fait,
c'est ça, qui est capable tout simplement d'adapter. C'est le troisième joueur qui te permettra d'adapter, que ce soit de t'adapter par rapport à la défense, de t'adapter peut-être par rapport aux blessures, par rapport à ce que la défense t'offre, par rapport à ce que tu peux faire, par rapport à ton adresse. Tu vois, s'il a un peu la main chaude et qu'il est capable de rentrer quelques shoots d'affilée. Enfin voilà, c'est une pièce qui est quasi fondamentale en playoff au bout du compte, et qui, sauf si effectivement tu te retrouves à avoir un joueur, enfin voilà, LeBron, et oui, c'est lieu centré, mais c'est LeBron.
Ouais, t'as LeBron et t'as aussi l'idée que Anthony Davis est peut-être la plus grosse menace.
C'est clair. Enfin, et puis il a shooté encore une fois, il a shooté à 55%. Du coup, c'est ça, c'est que même dans ces cas-là, même avec LeBron et tout, c'est des choses dont tu peux avoir besoin. Et en tout cas, c'est des choses dont on pouvait avoir besoin quand il était au Heat, par exemple. Parce que du coup, t'avais Bosch qui était complètement capable dans ce cas-là, soit de servir n'importe qui, notamment Ray Allen, ou alors Mike Miller, ou alors, enfin bref, ou même Birdman s'il se retrouvait à l'intérieur, mais qui était capable lui-même de rentrer son mid-range ou d'aller chercher sa faute, qui était capable de ressortir. Back out, toi. Enfin voilà, bref, vous voyez bien.
Ouais, on note qu'il y a beaucoup de mineurs de pivots qui ont ces fonctions-là de.
Ouais.
Soit de release. Soit, par exemple, sur une trappe, c'est très important d'avoir ton pivot qui soit. Ta manière, c'est l'exemple parfait d'avoir ton pivot qui soit capable de faire cette passe-là pour un autre joueur. Ou justement, de pouvoir lui aussi mettre un peu de. Avec un post-up, de mettre la puissance sur la défense pour ressortir.
C'est ça. T'avais pris l'exemple de Gasol, mais pareil, Gasol avec Toronto, c'est ce qu'il a été capable de faire, c'est que tu le retrouvais à l'intérieur sur la fixation, il pouvait. Bon, ça a toujours été un excellent passeur, mais il était capable de servir n'importe qui, il était capable de rentrer les trois points s'il était un peu isolé à l'extérieur. Donc voilà, t'as besoin en tout cas de cette troisième pièce. C'est assez intéressant quand elle passe. Enfin, je sais pas si c'est poule ou l'œuf, mais en tout cas, le jeu veut que assez souvent ça passe par l'intérieur, et c'est important et c'est bien. Mais en tout cas, quand tu l'as pas, à moins qu'effectivement, et même dans ce cas-là, mais à moins que tes deux, ton système héliocentré soit vraiment trop fort, ou alors que tes deux premières options, donc que ce soit LeBron et Anthony Davis, généralement c'est quelque chose dont tu peux avoir besoin, et parce que ça te permet, ça t'offre une beaucoup plus grande polyvalence face à peu près toutes les défenses que tu peux rencontrer en playoff. Donc ouais, non, très bien vu d'avoir abordé ce point parce que je l'avais oublié. On va passer du coup rapidement. En fait, on a peut-être même un peu fait le tour en parlant un peu de l'attaque, vu que c'est lié, évidemment. Mais du coup, défensivement, est-ce que tu verrais des choses qui changent drastiquement en play-off, ou alors des choses qu'il faut forcément avoir fait ou avoir vu en play-off, ou des pièces défensives dont tu as forcément besoin, ou bref, des choses qui sont des choses qui marquent un peu la différence entre la saison régulière et la post-season.
Je pense qu'on a parlé du drop, et je pense que c'est compliqué aujourd'hui d'être en play-off et d'avoir pour seul système défensif le drop. Milwaukee, c'est un exemple. Utah, on va voir si même si Gobert c'est peut-être le meilleur drop big man de la ligue, on va voir si avoir pour seul point défensif de dropper, après ils font d'autres trucs, c'est genre l'idée générale, c'est quand t'affrontes Steph Curry, des Lillard, même les Bruins pendant qu'il prend des 3 points des James Harden, je pense que c'est compliqué de se dire que ton identité défensive, si ton identité c'est que le drop, c'est compliqué aujourd'hui en NBA. On l'a fait du point de vue offensif, mais c'est compliqué d'espérer quelque chose en playoff avec pour seul but de fermer la peinture au final. Il y aura autre chose après.
C'est sur le même point ou c'est...
Non, c'est autre chose.
Du coup, moi, j'ai noté en grand le cas Rudy Gobert. Tu vois, parce que en gros, c'est 100% ça. Rudy Gobert, bon, déjà pour parler rapidement du joueur, mais je pense que c'est un type où la vision que les gens peuvent avoir, ou alors la portée que ça a complètement parasité le débat sur le joueur que c'est. Voilà, c'est-à-dire que tu peux plus parler de Gobert dans un sens ou dans l'autre sans que ça parte en couille. Gobert, comme tu l'as dit, c'est un joueur qui illustre à quel point ou jusqu'à quel point tu peux aller en étant élite dans une compétence ou dans un skill qui est ultra important et nécessaire en NBA, à savoir la protection d'arceau. Lui, c'est pas Rudy Gobert, c'est littéralement le meilleur protecteur d'arceau de la ligue, et à un point où ça, il te permet de manière complètement unique et individuelle de créer un système défensif qui te rend complètement serein en saison régulière et qui va faire que année après année après année après année tu sois élite, taille en playoff, etc., etc. Est-ce que c'est le joueur intrinsèquement qui te permet? Non, d'accord, ça, je pense que c'est quelque chose qui
peut dire que lui,
voilà, c'est pas intrinsèquement un top joueur de la ligue.
Les dernières, ils doivent être 11e défensivement parce que il y a d'autres choses dans la défense qui marchent pas, même si lui
c'est ça. C'est ça. Donc ça veut pas forcément dire que c'est la panacée ou quoi que ce soit. Et de la même manière, quand Andy Bailey va dire que c'est le meilleur défenseur de l'histoire, lui aussi stop, tu vois, stop. Mais il n'empêche que dans ce qu'il maîtrise à la perfection, c'est quelque chose qui est tellement qui a tellement de valeur en NBA que ça en fait un bon joueur NBA. Après, si vous voulez débattre du fait que ce soit un excellent joueur de basket, ça c'est un autre débat et probablement pas, enfin c'est probablement pas le cas, ou en tout cas il n'est pas élite en tant que joueur de basket de manière générale, mais en tant que joueur NBA, effectivement le fait d'avoir maîtrisé à la perfection un skill qui te rend complètement élite, c'est un peu, bon pareil, Klay Thompson fait d'autres choses, mais Klay Thompson c'est un top shooter et voilà, bah, du coup t'es un top shooter, on est dans une ligue de shooters, bah t'es trop fort, fin. Et c'est un peu le truc qui rend la discussion autour de ce joueur un peu difficile, mais c'est ça, c'est Rudy Gobert, il est excellent parce que bah, globalement la défense la plus utilisée en NBA en saison régulière c'est le drop, Gobert est le meilleur défenseur sur drop, il est bon en NBA quoi qu'il arrive. Sauf que du coup voilà, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, quand tu drops, le shoot que t'offres c'est supposé être le shoot, le shoot peu rentable en termes de pourcentage, mais déjà un, les bons joueurs sont efficaces dessus, et deux, si tu l'offres, quoi qu'il arrive, il y a des gens qui seront efficaces dessus. Du coup, Gobert a souvent eu des problèmes année après année, donc parce que déjà ils sont tombés face à Utah trop souvent, trop souvent. Donc bah Harden, oui voilà, c'est-à-dire que Harden, Chris Paul, bref peu importe, c'est des situations où tu peux pas leur offrir ces shoots-là. Du coup, est-ce qu'effectivement tu peux te permettre d'avoir, de la même manière que quand offensivement t'as un seul système comme on en parlait avec Milwaukee tout à l'heure et que du coup si t'es pas capable de l'adapter t'es mort, défensivement est-ce que t'es capable, peu importe à quel point ça peut être maîtrisé, hein, est-ce que c'est possible pour une équipe ou pour un système d'être serein et de t'en sortir si c'est entre guillemets si facile ou en tout cas l'approche pour le contrer est si simple et qu'il y a tant de joueurs qui sont capables de le sanctionner, je sais pas. Et justement, ce qu'on a pu voir avec, avec les plus récents champions de la conférence Est, donc le Heat et Miami, c'est ouais. Que voilà, ils ont approché leur saison régulière pour avoir une polyvalence défensive énorme, pour être capable. Enfin voilà, tu reprends juste le schéma des playoffs de l'année dernière. Le Heat, ils ont commencé la première série en individuel et avec un peu de trappe, la deuxième série ils ont fait de la zone, troisième série c'était beau, enfin face à Milwaukee c'était pas de la zone, c'était oui. Voilà, tu packes la défense et c'est tu jouais, voilà un peu de zone etc, zone face à Boston entier parce que du coup Hayward n'était pas capable de sanctionner, et face à Boston c'était beaucoup d'adaptation par rapport à ce que Vogel mettait en avant, enfin bref c'était du read and react. Au bout du compte, c'est ces équipes-là qui vont loin. Pareil, l'année précédente, Toronto, enfin voilà, ils mettaient du box and one, ils mettaient de la zone, ils mettaient de la transition défensive, ils mettaient du double, ils mettaient du triple type. Enfin, voilà.
C'est régulier, ils mettaient du presse du terrain.
Non, mais c'est ça, ouais, voilà. Il y a des matchs en régulière, ils font de la presse. Tu vois, enfin, c'est des trucs comme ça, mais du coup, tu sais qu'en fait, quand ils arrivent en playoff. Du coup, enfin voilà, mais quand.
Miami, il y a un autre truc qu'ils faisaient l'année dernière qui est intéressant.
Du coup, ouais.
La zone de Miami, en gros, c'était une zone qui est différente des autres, parce qu'en gros, la zone, normalement, les zones, c'était des équipes qui mettent leurs petits devant.
Ouais.
Miami, ce qu'ils font, c'est qu'ils font la zone avec leur... Butler, tu ne peux pas dire que c'est un foire, mais en fait, c'est leur joueur les plus difficiles à passer.
C'est ça, en première ligne. Et après, derrière, tu avais aussi des gens avec de l'envergure. Ouais. Et puis, sur les corners, parfois, ils essayaient un peu de cacher, justement, ouais, leur...
Ça, oui, cacher les joueurs.
C'est ça, ils mettaient Dragic et Robinson d'un côté ou de l'autre pour justement les cacher. Bon, du coup, tu jouais un peu, ils jouaient sur l'aspect dont on parlait tout à l'heure, sur la variance. Tu t'es dit que, bon, les corners... Si tu arrives à les. Comment on appelle ça ?
À contester, ouais.
À close out, voilà, à contester, bah, tant mieux. Si tu n'y arrives pas trop, bah, c'est des shoots qui peuvent rentrer ou qui peuvent ne pas rentrer. Jalen Brown les rentrait tous, mais de l'autre côté, tu peux avoir Kemba qui ne les rentre pas. Enfin bref, c'est des situations comme ça où, voilà, en première ligne, ils mettaient les joueurs les plus difficiles pour quand même empêcher un minimum l'accès à l'arceau et être capable de.
La zone, c'est le but. La zone, c'est le but.
C'est ça.
Avant tout, d'empêcher l'adversaire de rentrer dans
toi. De pénétrer, voilà, de pénétrer dans la raquette. Et du coup, voilà, t'empêches quand même de pénétrer. Tu es quand même capable un minimum de défendre le 3 points si tes deux s'écartent un peu, bon ils vont pas forcément sortir à une distance Curry, mais ils sont capables en tout cas de gêner un petit peu et de close out, et voilà, et c'est une polyvalence défensive que t'as pu voir chez ces deux équipes, et même au bout du compte encore une fois chez les Lakers, hein. Les Lakers, autant ils ont pu avoir un système défensif assez clair,
le personnel, eux ils ont deux défenses différentes avec son changement de personnel.
C'est ça, ils ont l'effectif qui le permet et ils ont aussi Vogel qui est un très bon coach défensif, ouais. Et qui était capable de s'adapter là-dessus. Mais voilà, en tout cas, c'est que les précédentes équipes qui ont gagné, c'est des équipes qui ont tout le temps été capables de s'adapter, quoi, et qui ont une certaine polyvalence, etc. Et qui sont aussi capables de drop. Enfin, tu vois, les Lakers sont capables de drop, ouais. Miami était capable de drop et Toronto était capable de le faire aussi. Sauf que c'était pas aussi systématique, c'était pas aussi courant et c'était pas aussi enfin, c'était pas une obligation, tu vois, c'était pas ok, on n'a pas le choix, on est obligé de drop. Peut-être que c'est effectivement une des situations dans laquelle tu te retrouves avec, avec Gobert, parce que Gobert, ça lui arrive, et il a été bien meilleur cette année d'ailleurs, mais Gobert, ça lui arrive d'être isolé sur le périmètre, et si le joueur essaye de driver et de le prendre de vitesse, il est excellent pour pouvoir recover et bloquer, parce qu'il a quand même une envergure de fou, il est quand même relativement mobile pour sa taille, donc voilà, c'est quelque chose que tu peux pas faire, et il a quand même assez d'envergure et de taille, et de, enfin voilà, pour contester un shoot à 3 points. Donc quand c'est pas, quand c'est Curry, oui, c'est problématique, mais si c'est quelqu'un d'autre ou un joueur relativement lambda, ça peut rentrer parfois, mais parfois ça peut finir avec un shoot hyper difficile où il peut se faire contrer. Sauf que quand tu es dans le cas où effectivement tu n'essayes même pas de l'isoler, mais tu joues tout simplement sur le jeu adverse, donc si l'équipe adverse elle drop, tu te dis pas forcément bon, je vais tenter de d'isoler Gobert, tu te dis juste bon, il drop, je shoot. Bah ouais, là même Kendrick Nunn, il peut s'en sortir quoi. Et du coup, c'est peut-être ce qui va leur poser problème. Après, comme tu dis, le Jazz cette année, ils défendent de plein de manières différentes. Enfin, ça a été la meilleure équipe au rebond offensif, en même temps sur une des meilleures transitions défensives, et en même temps sur la meilleure défense de drop. Donc c'est, ça prouve qu'ils sont quand même capables de faire plusieurs choses. Mais même dans les trucs sur lesquels ils excellent, ou cette polyvalence-là, c'est quand même quelque chose, je trouve, qui est assez représentatif de la saison régulière. Parce que s'il y a moins de transition, bah du coup, ta transition défensive, elle a peut-être un peu moins de valeur. Ouais. Tu vois, c'est pareil, tu auras peut-être plus besoin d'avoir une défense polyvalente sur demi-terrain plutôt que d'être capable de contrer tout ce qui peut être fait en saison régulière sur le nombre de shoots, etc. Du coup, c'est quelque chose qui va être intéressant à suivre, surtout... bon, là, du coup, non, ils vont pas jouer Golden State, mais ils vont jouer Memphis, et voilà, c'est des équipes qui sont capables de punir de plein de choses différentes, ou en tout cas, qui montrent qu'ils sont capables de planifier un game plan assez correctement, et du coup, ça va être intéressant à suivre, mais pareil, juste après, ils vont avoir Kawhi, enfin, si, bon, soit ils auront Kawhi et Paul George, soit ils auront Doncic et compagnie, donc quoi qu'il arrive, c'est des joueurs qui sont capables de rentrer des mid-range, et il faudra voir si sur le long terme, ils s'obstinent, mais s'ils ont la capacité ou la possibilité d'avoir des systèmes différents, des idées différentes, des plans de jeu différents pour justement s'adapter dans le cas où... Parce que voilà, je pense que c'est une équipe qui ne peut pas vraiment se permettre, comme on en parlait tout à l'heure, mais ils ne peuvent pas se permettre de sortir Gobert. Tu sais, ils peuvent le faire sur un ou deux. Ouais, c'est mort.
Je ne suis même pas sûr. Je pense que c'est même limite plus compliqué. C'est genre des choses où, pour sortir ton meilleur joueur, est-ce qu'ils font... Certains nous excusent pour ça. Pour sortir ton meilleur joueur dans un match où tu, en fait, tu joues ta vie dans un playoff,
c'est mort. Bah, ouais, mais je pense qu'il se bat avec toi. Déjà, de base, déjà, Gobert ne sort pas. Bon, juste pour éviter l'éventuelle polémique, on va dire ouais. L'éventuel meilleur joueur. En tout cas, celui qui a le plus d'impact. Voilà, comme ça, ne sautez pas dessus. C'est pas l'idée du débat, mais en tout cas, voilà, Gobert, si tu le sors aujourd'hui, non seulement c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais fait. Donc en fait, ils ne sauront même pas jouer sans lui. Mais deux, enfin lui-même, tu peux pas, surtout pas avec les contrats. Enfin non, c'est pas possible. Donc ouais, en fait, tu seras obligé.
Tu vas te donner un contrat de
200 millions, ouais, tu mets. Bah écoute, on joue pas sa même piste, désolé. On va devoir se passer.
Bon, voilà, la stabilité, gros, défensivement, il y a une chose aussi dans saison régulière qui est très, qui est très mise en valeur. C'est. En fait, les stats mettent beaucoup en valeur les pivots, comme Gobert. Mais pas beaucoup en valeur la défense au point d'attaque.
Ouais.
Et au final, on a vu avec les mismatchs, c'est quelque chose qui est au final très, très important, que ce soit en saison régulière ou en playoff, mais limite plus en playoff parce que tu as besoin d'avoir plusieurs joueurs qui soient capables de défendre au final l'initiateur adverse.
Ouais.
Et l'initiateur, ça tend à être des joueurs beaucoup plus, de plus en plus grands, de plus en plus forts. Et donc, quand tu as LeBron en face de toi, tu n'as pas besoin d'avoir un joueur capable de défendre LeBron parce, à cause des fautes ou forcément à cause des rotations, mais tu as peut-être besoin d'avoir deux, trois joueurs à lui donner, des joueurs différents pour. S'il arrive à en torcher un, t'attrapes le deuxième pour aider. Et donc, je pense que c'est aussi quelque chose qu'on voit pas forcément dans certaines équipes qui construisent pas leur roster dans l'idée de défendre ces joueurs-là au final.
C'est clair. Et c'est bien dit. T'as pas besoin d'avoir un seul joueur qui est capable de le défendre. T'as besoin d'en avoir plusieurs. Soit pour le problème de faute dont t'as parlé, soit parce que peu importe le joueur que t'es et peu importe la polyvalence que t'as, sur le moment, t'es chaud sur une chose. En tout cas, t'as une idée en tête. Après, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas t'adapter, etc. Mais peut-être qu'effectivement, si le joueur adverse, ou que ce soit LeBron ou n'importe qui, bah, il a enchaîné 2-3 drives d'affilée, t'as envie de lui placer quelqu'un qui est plus mobile sur ses pieds parce que voilà, il va être un peu plus à l'aise quand il s'agit de contester son drive. Si par contre, tu vois que le type adverse, bah, ça fait 3 fois qu'il vient hunt des mismatchs pour pouvoir jouer de l'épaule, bah, peut-être que t'as envie de lui attribuer un mec qui est un peu plus solide à l'intérieur et qui va être plus à l'aise quand il s'agit de tenir sa position et de baisser ses hanches. Enfin, voilà, t'as besoin d'avoir, peu importe. L'équipe ou peu importe le joueur, tu as besoin d'avoir un panel de défenseurs qui soit capable de tenir à peu près pas tous les types de positions, mais plusieurs. Voilà, la polyvalence défensive, elle est beaucoup plus importante en playoff qu'elle peut l'être en saison régulière, tout simplement. Et Et c'est, enfin, en défense, j'entends, et ça montre, ça prouve aussi, entre guillemets, pourquoi, je sais pas, Draymond Green a toujours été un excellent défenseur dans les situations de playoff, parce qu'il sait relativement tout faire, qu'il peut counter tous les systèmes défensifs et se positionner face à tout le monde, là où Gobert a pu avoir des problèmes, mais que c'est Gobert, que Gobert est quand même sorti de deux défenseurs de l'année, tu vois, donc c'est vraiment, comme tu dis, c'est des choses qui sont mis en avant de manière différente, et ça explique aussi, bah, je sais pas, la vision des joueurs par rapport à Rudy Gobert, au bout du compte, ils ont tendance à baser le jeu et leur vision des choses par rapport au play-off et au moment où tout se joue sérieusement, et dans ces situations-là, bah, ils auront plus peur d'un mec comme...
C'est pas Gobert qui les défend, genre,
ça va être Simmons, ça va être même Bam, ça va être Matisse Thybulle, enfin bref, n'importe qui,
mais je crois qu'il y a Jrue qui a dit
ça, pareil.
Dans sa tête, c'était, pour lui, c'est le meilleur défenseur de la ligue, en fait, parce que lui, il défend tous les meilleurs joueurs.
C'est Jrue qui le disait justement, et j'avais l'article. C'est ça, il explique que là où Gobert, bah, effectivement, c'est important, et blablabla, c'est pas comme on l'a dit, c'est vraiment quelque chose qui a de la valeur en NBA, mais bah, du coup, Holiday, ou alors même, je sais pas, même les Butler, ou même les Bam, ou ce genre de choses, c'est des types qui constamment, en permanence, sur tout un match, toute une saison, sont positionnés face à tous les types de joueurs face à qui ils se retrouvent, et ça peut varier, ça peut aller du simple garde face au pivot, face au 4 un peu solide, face au mec qui post up, etc. Et c'est des choses qui, bah, du coup se valorisent et se ressentent encore plus en playoff. Du coup, je te rejoins là-dessus. On avait parlé un peu de l'idée, ou en tout cas de l'importance d'avoir le plus de possibilités défensives en termes de système. Et encore une fois, c'est quelque chose qu'on a pu voir avec les Bucks. Donc, bon, on en a parlé offensivement tout à l'heure. Défensivement, c'est un peu pareil. L'année dernière, en playoff, c'était l'équipe qui avait le plus drop. Ils ont drop, je crois, 45% de leur play. C'est quelque chose qui est beaucoup moins fréquent cette année. Ils ont beaucoup plus de polyvalence, que ce soit sur le switch, que ce soit sur le roster qu'ils mettent en place défensivement, sur leurs possibilités, sur les différents spots. Enfin bref, on voit bien, je trouve... tout ce débat, je trouve qu'il est relativement bien illustré par la dynamique qu'ont pu avoir les Bucks sur les années précédentes et sur là où ils se dirigent cette année. Et d'ailleurs, ça explique aussi, je pense, pourquoi, indépendamment du fait qu'ils aient pris Jrue Holiday, mais je pense que ça explique aussi pourquoi cette année ils sont vus comme beaucoup plus dangereux qu'ils ont pu l'être l'année dernière, ou en tout cas pourquoi moi l'année dernière, voilà, à la même période, on parlait du match-up, je disais qu'en termes de match-up, Miami, ils matchaient hyper bien les Bucks, et que autant les Bucks pouvaient s'en sortir parce qu'ils avaient des shooters énormes, autant sur le jeu pur et dur et sur la technique, entre guillemets, et la tactique, ils allaient se faire bouffer, au final ils se sont fait bouffer. C'est quelque chose qui est beaucoup moins, c'est une impression qui est beaucoup moins présente aujourd'hui, voire même dans le sens inverse, parce que justement ils se sont vraiment orientés vers, entre guillemets, un jeu play-off, là où l'année dernière ils voulaient juste, entre guillemets, dominer. Donc voilà, je trouve que c'était une équipe qui représentait bien tout ça. Et je sais pas si tu avais d'autres choses à dire sur la défense.
Non, je pense pas.
Parce que du coup, moi là, j'allais te poser j'allais rapidement revenir sur les Nets. Parce que je trouve qu'ils illustrent aussi bien l'idée. C'est que cette année, pour l'instant, les Nets, bon, je sais pas à l'heure actuelle, mais je sais qu'il y a quelques jours, ils étaient 24e meilleure défense. Ils étaient genre 22e sur demi-terrain. Ils n'ont pas une bonne défense, ils vont un peu dans le sens contraire de ce qu'on a pu dire plus haut par rapport aux besoins de défense. Ils switchent beaucoup, donc ça c'est quelque chose qui va... Voilà, donc je ne savais pas que c'était le plus, mais en tout cas voilà, c'est ceux qui...
En tout cas, au moment de la saison c'était ça, donc je pense que ça n'a pas trop
changé. Ouais, non, ça n'a pas dû... Oui, non, ça n'a pas dû changer. Bah, ok, donc c'est une équipe qui switche beaucoup et c'est quelque chose qui va servir en playoff, et de toute façon, vu le roster, c'est aussi quelque chose qu'ils ont besoin de faire. Ils sont relativement bien... classés, enfin en tout cas statistiquement leur défense en switch marche plutôt bien, mais c'est quand même pas une bonne défense de manière générale. Il n'empêche que par rapport à tout ce qu'on a dit offensivement, je crois qu'en termes de statistiques aussi, mais de façon même visuellement, ils ont le premier et le cinquième meilleur joueur quand il s'agit de rentrer des shoots difficiles, donc ça veut dire les shoots difficiles en termes de pourcentage, les shoots qui sont censés être le moins rentables, donc évidemment ils ont Kyrie, et encore ça c'était le moment où Harden jouait jamais, mais ils ont Harden, ils ont Kyrie, ils ont KD. Je pense qu'ils illustrent un peu, pareil, de la même manière que les Bucks l'illustrent dans un sens, je pense qu'eux, ils illustrent un peu le truc dans l'autre sens, c'est-à-dire à quel point, défensivement, tu as besoin de tout ce dont on a parlé, à quel point c'est crucial, ou à quel point tu es capable aujourd'hui d'aller au top avec toute la polyvalence offensive que tu es capable. Je veux dire que t'es capable d'avoir en NBA, tellement leur roster est complètement délirant. Donc, tout bêtement, avant que. Enfin, ouais, après, tu peux rajouter des trucs dessus, même si t'en as, mais à quel point tu penses que. Entre guillemets, c'est possible pour eux.
Je pense que c'est possible parce qu'au final, ils ont la meilleure attaque de la ligue. Ouais. Mais on ne les a jamais vus au complet. Donc on ne sait pas à quel point leur attaque est, au final, avec les trois, ou même avec deux pendant 25 minutes, plus le troisième qui joue, par exemple, Kevin Durant et Kyrie Irving ensemble, et Harden qui joue le stagger, en fait. On ne sait pas à quel point leur attaque leur permet d'avoir ces faillites défensives. Et au final, c'est une question de... C'est une sorte de rapport de force, au final. Parce que si tu arrives offensivement, tu arrives à mettre... je te donne n'importe quoi. Tu as 130 de offensive rating. Bah, ton defensive rating, il va baisser juste par le fait que tu vas jouer plus de possession en demi-temps.
C'est clair.
Donc, en fait, tout le débat sur leur défense... Et, ils peuvent peut-être améliorer un peu leur défense, le débat sur la qualité de leur défense, bah c'est plus à quel point leur attaque peut dominer des bonnes défenses.
Et tu penses, enfin, de toute façon, on va bientôt conclure, donc histoire de se mouiller, tu penses qu'ils vont au bout ou pas? Parce que moi, en fait, j'ai l'habitude.
Ça m'étonnerait pas qu'ils y aillent, mais moi, en ce moment, je pense pas.
En fait, moi, c'est plutôt. Ils vont tellement à l'encontre de tout le basket que j'ai toujours regardé, même Golden State, encore une fois, quand ils étaient trop forts offensivement et que c'était la meilleure de l'histoire à ce moment-là, ils étaient quand même 11e, tu vois. Enfin, t'as des types, ils sont 24e, et je me dis qu'il y a beaucoup d'équipes. Après, ça dépend qui ils rencontrent, mais il y a beaucoup d'équipes qui, en théorie, sont censées être capables de sanctionner beaucoup de choses, ou qui sont censées être capables de planifier beaucoup de choses. Et offensivement, déjà, t'as aussi besoin d'une certaine résilience mentale, pardon. Pas pour dire c'est des tuckers, tout ça, mais plus dans le sens où ils n'ont pas beaucoup joué ensemble, donc ils n'ont pas beaucoup rencontré d'adversité. Ils ont été tellement forts sans avoir besoin de forcer que, du coup, pareil, ils ont jamais vraiment été mis en difficulté, à part par les blessures et les absences. Donc en fait, il y a toute une dynamique un peu mentale, même par rapport aux playoffs justement et par rapport à la ligue, dont ils vont peut-être manquer et qui va peut-être pas leur permettre d'avoir on est tellement fort offensivement qu'on s'en fout de la défense. Mais effectivement, si ils sont capables d'être dans des situations où ils peuvent jouer, entre guillemets, à leur niveau offensif en permanence, je pense qu'ils peuvent être dans une situation où, tant pis, on prend 122 points mais on en met 138. Ouais, mais je pense que c'est quand même plus difficile parce qu'ils ont quand même un effectif où il y a des failles, même quand en switch ils sont capables de bien défendre, enfin comme on parlait tout à l'heure du mismatch hunting en playoff, tu mismatch hunt Kyrie, enfin voilà, je veux dire il a des bonnes mains et tout, mais il reste quand même pas hyper physique et il y a beaucoup de joueurs qui peuvent le bully. Harden est un bon défenseur quand il le met au poste, mais si tu arrives à l'isoler à l'extérieur, enfin voilà, tu peux te retrouver dans des situations où tu peux profiter de lui tout simplement. Donc ouais, je serais pas surpris qu'ils aillent au bout, parce que bon, voilà, là, l'équipe, mais je serais quand même un peu surpris qu'ils aillent au bout, parce que voilà, il y a plein d'autres...
Il y a un parallèle peut-être avec les Clippers de l'an dernier, c'est pas le même niveau de star power, mais il y a une idée que c'était l'équipe qui avait limite le plus de capacité de shooting de la ligue, et eux aussi c'était une équipe qui avait au final peu joué, apparemment c'était peu entraîné ensemble, et... Peut-être qu'il y a peut-être un moment où ça va devoir se jouer, genre c'est une série où ça va jouer à un petit touche, un truc comme ça. Et c'est peut-être là où genre le manque de pas de repères ou peut-être le manque d'habitude, ça va jouer.
C'est ça. Au final. Et pour les Clippers, justement, il y avait un truc dont on a parlé tout à l'heure, mais c'est quelque chose. Enfin, ça revient plutôt à l'attaque, mais. Eux, il leur a aussi manqué un truc ultra important en playoff, c'est le vrai playmaker. Parce que de toute façon, tout à l'heure, on a parlé du fait que c'était important d'avoir un deuxième joueur capable de créer sa propre offense, c'est un troisième qui est capable de relocaliser. Mais ça nécessite aussi, de manière générale, d'avoir un top playmaker au poste, enfin, en tant que garde, pas forcément au poste 1. Et en tout cas, quelqu'un qui soit capable d'initier des jeux pour les autres et pour lui. Et quand je dis des jeux, c'est-à-dire pas seulement un simple pick and roll, mais un drive and kick, qui soit capable de lober, qui soit capable de je sais pas, une pocket pass ou ce genre de choses. Parce qu'il y a des moments où, en fait, tu seras bien défendu. Il y a un moment ou un autre où tu seras bien défendu. Et donc, il y a un moment ou un autre où tu auras besoin que ce soit ton garde ou celui qui a la balle qui soit capable de faire la différence. Quand tu as LeBron, quand tu as même parfois Chris Paul ou bref, peu importe, ça va. Mais du coup, il y a des moments où c'est des choses qui ont posé des difficultés aux équipes, entre guillemets, à beau jeu. Pas dans le sens une équipe qui a du beau jeu, elle manque forcément de playmaker. Mais on peut prendre l'idée d'Atlanta d'il y a quelques années où ils sont 5 à aller au All-Star là. C'est une équipe où 2015. 2015, au bout du compte, c'est pas Jeff Teague qui va te permettre de faire la différence s'ils sont bien défendus.
C'est une possession qui finit en 4 secondes et genre t'as peut-être un seul joueur à qui tu peux donner la balle, tu lui dis il va se passer
quelque chose. C'est ça, et il faut qu'il en fasse quelque chose, que ce soit se créer son propre shoot, trouver un kick-out ultra, ou forcer la défense à collapse et tout. Et ça, du coup, c'est même un des point d'interrogation qu'on peut avoir pour Utah, par exemple, c'est que Mitchell peut l'être, Mitchell l'a été, et Mitchell l'année dernière en playoff, bah, il l'a été complètement. Est-ce que cette année, il va encore être capable de le faire, et de le faire à tel point que ça leur permette d'aller au bout, ou d'aller plus loin qu'ils ont pu aller habituellement, ou en tout cas, enfin voilà, je sais pas, Mitchell, bon, il joue pas pareil du tout, hein, mais Mitchell, il a souvent été comparé à Wade. Wade, quand il arrive dans sa troisième année et qu'il joue avec Shaq et compagnie, c'est quelque chose qu'il a été capable de faire. C'est rapidement, il a été capable d'être ce créateur et d'être capable, quoi qu'il arrive, de trouver son propre shoot, d'être capable d'aller sur la ligne, de servir Shaq et de servir les ailiers. LeBron a toujours été capable de le faire. Y a des équipes qui n'en ont pas forcément eu besoin parce que le playmaking se passe différemment, notamment Curry, pas cette année, mais voilà. Mais c'est, enfin voilà, en tout cas, t'as besoin que quand il n'y a pas beaucoup de possibilités ou quand il n'y a pas beaucoup de temps, ton joueur soit capable d'avoir la gravité, que ce soit balle en main ou off-ball, ou tout simplement en termes de position sur le terrain, pour que quelque chose se passe grâce à lui. Et ça, c'est quelque chose qui peut manquer quand le jeu est trop... Enfin, c'est bête à dire et c'est un peu contre-productif, mais c'est... pas contre-productif, mais c'est un peu paradoxal, mais c'est aussi quelque chose qui, justement, illustre encore la différence entre les playoffs et la saison régulière, c'est que tu as besoin qu'il soit capable un peu de disrupt, enfin de changer, de casser les codes de ton jeu, quoi. Et ça, c'est ce que, par exemple, Kawhi pouvait être pour Toronto. Alors que Toronto avait clairement des playmakers. Enfin, je veux dire, t'as Laurie qui, tu donnes la balle en main en permanence et ça va. Mais du coup, eux, ils avaient entre guillemets leur beau jeu. Et Kawhi, c'était le joueur qui, quand ça allait pas, quand ça collait pas, quand il fallait ralentir le jeu, quand il fallait aller sur la ligne, tu lui donnais la balle et il allait entre guillemets à l'encontre de ton jeu pour rentrer quoi qu'il a, enfin, rentrer le shoot dont t'avais besoin, etc. Et ça, c'est quelque chose qui parfois manque. Que ce soit chez les jeunes joueurs, parce qu'ils sont encore un peu jeunes, donc ils manquent d'expérience, d'habitude, etc. Ou alors bah, dans des équipes qui n'en ont tout simplement pas, et tu te retrouves bah, dans des situations où tu manques de quelque chose, tout simplement, et c'est un peu ce dont les Clippers sont manqués l'année dernière. Dernière petite question, enfin, avant de demander rapidement de te mouiller sur chacune des séries, mais dernière petite question, un ou deux joueurs que tu vois réaliser de grands playoffs cette année et inversement, c'est-à-dire soit un joueur qui va vraiment, hors LeBron James s'il te plaît, un qui va vraiment performer en playoffs, que ce soit par rapport à tout ce qu'on a dit ou par rapport à lui-même tout simplement, inversement un joueur qui a peut-être beaucoup d'attentes sur lui mais qui va pas s'en sortir ou qui va avoir du mal, que ce soit à cause du match-up, à cause de son jeu, à cause de, enfin bref.
On peut dire Kevin Durant ou pas?
Ouais, mais dans quel côté?
le premier.
Ok, ouais si Kevin ça passe, ouais.
Ouais. Je sais pas si après, je sais pas si j'ai des surprises ou des choses comme ça.
Peut-être non, mais pas forcément, même pas forcément surprise. Hein.
Dans le mec, qui va peut-être là, il joue très bien en ce moment, et peut-être c'est là où cette saison, où, en playoff, il va avoir sa série où il va être très bon. Je sais pas si ça va suffire pour
qui peut être, ouais.
Il va être très bon dans la série. Et dans le mauvais, attends, dis le bon et je cherche le
mauvais. Bah pareil, moi en fait, justement, je pars du principe que dans le bon, il n'y aura pas forcément énormément de surprises. Généralement, c'est des joueurs que tu connais un peu. J'ai peut-être peur, je sais pas, enfin, j'ai pas du tout. Enfin, j'adore le joueur et je sais que pour moi, il est hyper fort, etc. J'ai peut-être peur que du coup, ça soit difficile pour Chris Paul ou pour Booker. Mais parce que ils vont être hyper bien défendus sur la série, parce qu'ils se retrouvent face à un match-up qui n'est vraiment pas bon pour eux. Je trouve, enfin, tu vois par exemple Caruso, je le trouve énorme en défense et je pense que c'est pas forcément le type que tu as envie d'avoir au corps à corps H24 sur un premier tour. Donc je pense que ça, c'est un joueur qui peut décevoir, mais qui peut avoir plus de mal qu'il en a eu toute cette saison, ou alors qui peut bah, du coup faire basculer la série dans le mauvais sens, mais pas dans le sens il les fait perdre, mais plus dans le sens où son impact et son apport n'est pas aussi conséquent qu'il a pu l'être pendant la saison régulière et donc il peut poser des problèmes. Donc ça, c'est plutôt celui que j'aurais en possible. Il va avoir des problèmes, mais c'est voilà, il tombe sur les Lakers au premier tour. Et joueurs qui vont être bons, bon, à part tous ceux qu'on a pu citer, enfin même KD, voilà, pour moi, il va être bon. Harden, je pense qu'il va être très bon. Je sais pas à quel point j'y crois, mais je me dis qu'en fait, cette année, il faut absolument que Paul George y soit bon, quoi.
Je pense que cette année, bon. En tout cas, la première série, bon, après, on verra.
Mais... Oui, non, mais voilà, mais la première série, il faut être bon après aussi, tu vois. Je pense qu'il va l'être aussi, et je pense qu'il a besoin de l'être. Mais sinon j'avais pensé aussi à Lillard potentiellement parce que cette année ils ont je sais pas à quel point ça sera efficace ou pas, mais en tout cas ils ont un premier tour qui est relativement équilibré, je pense ouais. qu'ils peuvent le passer et je les vois passer pour l'instant, donc je pense qu'il a aussi les différentes pièces qui peuvent permettre bah, un peu, pas tous et pas forcément dans des des standards exceptionnels, mais il a des pièces qui peuvent lui permettre, en tout cas, de lâcher par moment la balle et d'être quand même efficace, de jouer sur d'autres aspects de son jeu, comme l'aspect off-ball, ou en tout cas, être moins sensible au double team qu'il a pu subir les années précédentes. Donc je me dis qu'il y a possibilité qu'il fasse de belles séries aussi. Et sinon, un autre joueur qui va pas forcément décevoir ou non. Je sais pas, je me dis aussi qu'il y a possibilité que Giannis soit bon cette année parce qu'il a beaucoup plus de polyvalence en termes de roster. Il a beaucoup, enfin, quand je dis bon, il a été bon l'année dernière, hein, il a été bon sur les années précédentes et il a rarement été vraiment vraiment mauvais, mais plus en mode c'est peut-être l'année où c'est peut-être l'année où il va au bout, justement. C'est peut-être l'année où Giannis a le roster et à l'équipe et a le dos au mur. Pour aller juste... Je sais pas à quel point, je me dis qu'ils ont complètement l'effectif pour pouvoir viser les finales de conférence. Je sais pas s'ils vont... Les finales NBA, pardon. Je sais pas s'ils vont y arriver ou pas. Mais il est dans une situation où, s'ils arrivent à se défaire du hit et d'un système qui peut leur poser problème, surtout quand ils ont perdu l'année dernière face à eux, je pense que ça peut le lancer sur un bon run de playoff.
Ouais, j'ai trouvé, je crois, les mauvais.
Ouais, vas-y.
Premier, je dirais Donovan Mitchell, mais juste à cause des blessures.
Ouais, ok.
C'est compliqué de
revenir. Ouais, de revenir comme ça, ouais.
Je pense que Randle, c'est possible.
Je vais pas penser à lui, mais... que tout
tombe. C'est possible que tout tombe, en fait, Randle. Vraiment.
Je pense et aussi... Donc, ouais. Non, vas-y, fini.
C'est possible que, genre, il soit bien défendu et, genre, le mythe tombe de sa saison.
Je pense que c'est possible aussi parce que tout simplement les Knicks ils se sont un peu illustrés avec leur défense cette année, tout simplement. Et il y a beaucoup de moments ou beaucoup de situations où ils s'en sortaient grâce à ces folies offensives. Mais par exemple, quand le Heat a joué contre New York, justement, en fait, ils ont un peu utilisé le même système qu'ils utilisaient contre Giannis. Et Randle n'a pas été bon et le Heat s'en est sorti avec 3 victoires, quoi. Donc peut-être pas face à Atlanta, parce qu'Atlanta n'a peut-être pas le personnel pour défendre comme ça et pour se permettre de le neutraliser.
Il est possible qu'ils fassent, ils mettent une défense où on va, le but c'est juste de dire que Randle il va pas mettre 30 points par match.
Et ça peut suffire.
Ça le frustre ou un truc comme ça et ça soit la seule solution pour New York et donc ça rentre dans un cercle vicieux et...
Randle c'est une bonne possibilité, mais c'est aussi je pense que ça serait super représentatif de la saison de New York, en fait. C'est peut-être au bout d'un moment, si tu tombes face sur une top défense qui est capable de correctement c'est qui leur deuxième tour, c'est face aux Sixers normalement, c'est ça? Les Sixers ont une équipe qui est complètement capable de pack la peinture et puis de jouer après les lignes de passe. Enfin, ils ont de l'envergure, ils ont des bons défenseurs extérieurs. Donc c'est possible qu'effectivement il ait des soucis à ce moment-là. Du coup, on va bientôt se quitter, mais histoire de se mouiller un peu avant les playoffs qui commencent dans quelques heures. Utah-Memphis. Lakers-Dallas. Enfin non, Clippers-Dallas.
Clippers, c'est pas une vraie série. Pour moi, ça peut finir vite.
Ok. T'avais dit pareil l'année dernière. Hein. Ceux qui veulent écouter le pod pré-playoff l'année dernière, il a dit pareil que ça allait terminer vite. Et je lui avais dit. Mais cette année, je pense que ça finit un peu plus vite quand même. Parce qu'il faut au bout d'un moment, il faut arrêter de faire les bouffons. Denver-Portland. J'ai Portland aussi. Phoenix-Lakers.
Lakers, mais ça dure un peu.
Moi j'ai Lakers mais à contre-cœur, hein. Franchement ça m'emmerde, les Warriors m'ont vraiment déçu, je sais pas pourquoi j'ai compté sur eux, je me disais qu'ils avaient peut-être, non, mais j'aurais bien aimé que ça soit différent, mais je pense.
C'est Denver qui fait ses trucs tous les ans là.
Ouais, ils cassent les couilles, puis même les Clippers aussi à jouer, on veut pas jouer les Lakers.
On fait jouer à Pivot de G-League, on lui donne
25 postes. Mais franchement c'est grave, tout un match, et le jeu il le regardait jouer en mode vas-y. Bon, en vrai ça s'entend complètement, donc c'est de la vanne sans être de la vraie vanne, mais en tout cas ils s'en sont sortis, ils sont tombés dans le bracket qu'ils voulaient. Philly-Washington.
Philly 5 ou 6.
Ouais. New York-Atlanta.
Atlanta.
Ah, je sais pas vraiment.
En fait, je pense que ce qui joue pour Atlanta, c'est que la défense de New York, c'est qu'il y a, eu du chamanisme sur les trois points et il y a
ouais.
la possibilité qu'il y a deux matchs où tout explose. Et...
C'est grave possible. Après, moi, soit je vois les choses dans ce sens-là, soit je vois les choses dans l'autre sens en me disant qu'il y a possibilité que Trae Young soit vraiment, vraiment bien défendu. Et après, voilà, ils ont l'effectif pour scorer différemment, mais je ne sais pas s'ils gagnent la série sans un bon Trae Young. Tu vois, c'est surtout ça.
Bogdanovic, Gallinari.
Ouais, non, ils ont les joueurs pour. Enfin, il y aura du. Ça ne veut pas dire que si Trae Young fait du, je sais pas, du 4 sur 16,
il y aura 10 lancers francs.
Ouais, bah après, justement, ça aussi, tu vois, est-ce qu'il en aura autant? C'est des petits trucs comme ça où, j'ai du mal, mais je me demande s'il aura le même impact qu'il a pu avoir en saison régulière et je me demande à quel point ça aura un impact. Du coup, j'ai du mal à vraiment mettre Atlanta. Allez, je vais dire Knicks juste histoire d'aller dans le sens inverse sans être très. Milwaukee, Miami, bon, voilà. De toute façon, t'avais dit la même chose l'année dernière, j'ai même pas envie de te demander. Mais oui, Milwaukee, j'imagine.
Ouais.
Ok. Je vais dire Miami, mais ça parce que j'ai pas envie de dire Milwaukee, tout simplement. C'est mort, la flemme des. Même s'ils vont sûrement. Ouais, non. Et Brooklyn, Boston. Bon, ça aussi, c'est pareil, c'est dommage. Mais bon.
C'est un sweep. Il y a pas d'élan.
Sweep, tu penses?
Ouais, c'est un sweep.
Je pense qu'ils en prennent au moins un. Peut-être même. Pas forcément parce qu'ils sont. Aussi bon, mais plus en mode, je sais pas, parfois Boston c'est chiant à prendre, tu vois. Genre, tu vois au TD, bon là ils ont pas énormément de fans, mais ça peut être relou. Et puis, enfin, je sais pas, c'est
des. Irving au TD, genre mec qui va mettre 50
points. Ouais, c'est grave possible. Ouais. Bon, en tout cas, moi, enfin oui, Brooklyn quoi qu'il arrive, mais sweep, je sais pas. En tout cas, voilà pour ce podcast pour aborder les playoffs. On vous souhaite une très bonne période en espérant qu'il soit aussi intéressant que la fin de saison et beaucoup plus intéressant que la saison régulière. Ce fut un plaisir de parler basket avec vous. Et avec toi, Harold. On se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast en espérant l'élite.